bienvenue dans cette troisième édition des cultissimes Alien Awards. Mieux que Miss France, un peu moins bien que l'Eurovision, la seule émission qui récompense de manière totalement arbitraire le meilleur et le pire de cette année 2022, en pas direct et en multiplex dans différents endroits de l'Île-de-France, veuillez accueillir le ténébreux, le talentueux Vic.
Bonjour.
Et de l'autre côté de la table virtuelle, laissez-moi introduire en toute amitié notre encyclopédant, notre génialissime Thomas.
Bonjour.
Et votre maître de cérémonie, j'ai dénommé moi, tout simplement. C'est peut-être le moment d'un peu d'ego trip. Comment est-ce que vous me qualifieriez? Parce que du coup, c'est toujours moi qui vous qualifie de ténébreux, de talentueux, de génialissime, etc. Mais du coup, je suis toujours un petit peu à la traîne. Vous me qualifieriez comment si vous deviez le faire? Lâchez-vous, faites-moi du bien.
Le tritonneux?
Ouais.
Spongieux?
Spongieux,
d'accord.
L'aquatique?
Ok, très bien. Donc moi je vous fais des compliments à tour de bras, je vous appelle le talentueux etc et tout, et moi je suis le spongieux, le spongieux
putatif.
De Saint-Ouen quoi.
Le putatif de Saint-Ouen.
Eh ben putain, je vais vous noter, je vais vous dire les notes que je m'étais noté moi sur mon conducteur, j'avais noté oh ouais ça fait du bien, ça a un peu d'amour, mon cul, pas du tout de l'amour ça.
Ouais, tu nous connais quand même, c'est clair.
Bah ouais, j'aurais dû m'y attendre un petit peu plus que ça. Chaque année, parce que c'est la troisième année, je commence par un traditionnel, comment ça va les copains?
Thomas, je te laisse.
Vous pressez pas, surtout.
C'est clair. Non, mais il faut juste qu'on se mette d'accord sur qui parle. Bah écoutez, ça va bien. Je suis fatigué. Je voudrais dormir, mais on me force à faire des podcasts. Alors écoutez, je suis là, mais à part ça, ça va bien.
Et de mon côté, c'est un début d'année 2023 qui finit un petit peu comme c'est fini l'année 2022, qui est bof, mais ça va. Écoute, donc
putain,
ça va aussi.
La pêche.
C'est la grosse pêche pour ces Alien Awards. Non, mais écoute, ça va. Par contre, c'est le troisième qu'on fait, parce que le podcast a plus que 3 ans.
Confirme. Ouais. Mais on n'a pas dû commencer les Alien Awards en fait dès la première année. Mm-hmm. Donc, en tout cas, je me suis basé sur le conducteur de l'année dernière qui disait deuxième édition. J'ai décidé d'incrémenter et d'appeler ça la troisième édition.
Très bien.
Voilà, je me suis dit que c'était la bonne façon de le faire.
Comment vas-tu alors pour cette troisième édition, toi-même, Florian?
Eh bien, écoute...
Spongieux.
tout à fait spongieux. Non, je vais vous dire comment je me sens dans un des prix de cette année, parce que ma situation, ma condition rentre dans un des prix de cette année.
Tu veux dire ta condition là de ces quelques derniers jours?
Ma condition de ces quelques derniers jours.
Ah, merde.
Ma condition de spongieux, on pourrait le dire.
Ah, bah oui.
Comment était l'année? Bah, l'année était dans la moyenne. Ouais, elle était pas mal. C'était comme dit Vic, c'était pas une excellente année, c'était pas une année de merde, c'était une année 2022. J'en attendais un petit peu plus d'une année
avec autant de deux,
avec des chiffres pairs notamment. J'aime beaucoup les années en chiffres pairs, mais c'était pas si mal. J'en attends pas grand-chose d'une année en impair, donc on verra bien. Peut-être que 2023 va nous apporter de belles surprises.
J'aime bien l'idée d'une année en impair, mais genre une année où tu serais habillé pendant toute l'année avec un imperméable. Voilà.
Une année où il pleut tout le temps, quoi.
C'est pour moi. Merci. Le sniper, on m'appelle.
Eh bien, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Moi, je n'en ai pas plus. Je pense que sans plus attendre, on peut passer au premier prix, si vous l'acceptez.
Tout à fait, on l'accepte.
Absolument.
Le prix Marty McFly, qui récompense le produit culturel qu'il était temps de consommer.
Alors Vic, c'était quoi ton prix Marty McFly, le produit culturel qu'il était temps de consommer en 2022?
Alors cette année, pour la troisième édition des Alien Awards, mon prix Marty McFly est attribué à La Malédiction de Strahd.
J'ai applaudi.
Merci Thomas, j'en attendais pas moins de toi. On est à distance, donc du coup, c'est difficile de te voir applaudir, mais c'est sûr que si on avait été ensemble, j'aurais été heureux de te voir applaudir. Effectivement, La Malédiction de Strahd est une campagne pour Donjons et Dragons 5e édition, qui est sortie en 2016 et qui est basée sur le module Ravenloft. Thomas, je te laisserai compléter après en tant que grand expert du jeu de rôle, Donjons et Dragons et toutes ces petites geekeries que l'on apprécie. Bref, Ravenloft, qui est le module un peu horreur, dark fantasy de Donjons et Dragons. Donc on est dans un univers gothique. Et effectivement, cette année, en 2022, j'ai eu l'occasion de consommer donc ce produit culturel, hein, qui, alors c'est pas si vieux, 2016. Néanmoins, j'en avais quand même pas mal entendu parler depuis ces années-là. Et donc là, eh bien, écoute, je suis joueur, en compagnie d'ailleurs de mon ami ici présent, Sacha de Bourpalette, d'Orpalette, qui est donc joué par Thomas.
Et donc, chasseur c'est dans de un
chasseur de monstres émérite, effectivement. Tu es d'ailleurs tu es un bien très précieux dans notre équipe parce qu'on est un peu des bras cassés.
Mais excusez-moi, j'aimerais apporter un petit peu plus de précision. Ce n'est pas Sacha de Bourpalette, c'est Sacha Hausdorff Palette.
Oui, là, Sacha Haus, bah oui, c'est un chasseur de monstres dans un univers gothique. Donc, c'est effectivement plus du côté germain que du côté Pokémon qu'il faut aller chercher son nom. Mais donc, rapidement, le pitch, on est donc une équipe de... On joue à combien, Thomas? On est 4 ou 5?
Bah,
5
on est un peu plus... En fait, ça dépend de chaque soir, mais on est 5 joueurs, 1 MJ, je crois.
Ouais, 5 joueurs, 1 MJ, donc 5 aventuriers. On évolue donc dans le royaume de Barovie, un royaume gothique avec manoirs, vampires, loups-garous, morts-vivants, etc., etc. Dans un brouillard très brouillageux, très mortel, gouverné par le terrible sorcier vampire Strad von Sarovich. Et donc, du coup, bah voilà, on parcourt un petit peu ce pays de Strad pour essayer de s'en sortir, parce que le brouillard fait que, bah, on peut pas s'en sortir. On y rencontre diverses situations et créatures un petit peu, voilà, comme je disais, des vampires, etc., etc., des loups-garous, des terribles créatures. Et donc voilà, notre petite équipe de 5 aventuriers, ben on essaie de sortir de là. On arrive au bout de l'aventure, après quoi, une dizaine de parties, je dirais.
La prochaine, c'est la 15e, je crois, donc on aura fait 15 parties si on termine.
Ah oui, alors je ne les ai pas toutes faites, mais effectivement, voilà, entre 12-15 parties. Et c'était super chouette. Et donc voilà, c'est mon prix Marty McFly, un module de Donjons et Dragons que j'ai particulièrement apprécié l'année dernière.
Si je peux me permettre de compléter, c'est tout à fait le prix Marty McFly, parce que figurez-vous que ce module a d'abord été publié en 1983. 1983, oui. T'arrives pas à lire. Donc c'est d'autant
plus...
Le module Ravenloft.
Voilà. Pas
et tout à fait, on joue une mise à jour de ce module-là. C'était pour revenir sur ce que tu disais au début de ton prix. Donc tout à fait, c'est d'autant plus Marty McFly.
C'est cool, non? C'est un bon prix, Thomas, je pense que
c'est un excellent prix. Bah, tu sais, moi, l'année dernière, j'avais donné mon Marty McFly à DD5.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Donc, tu vois, on est connectés.
Je ne m'en rappelais plus, eh bien, très bien. Voilà pour moi.
Et pour notre cher Thomas, quel est le prix Marty McFly?
Mon prix Marty McFly, il tient en 3 lettres. PTA, PTA, Paul Thomas Anderson, qui est donc un réalisateur américain, que j'avais vu un seul film de ce monsieur, que j'avais bien aimé. Qui n'était autre qu'une adaptation d'un roman de Thomas Pynchon, hein, que nos auditeurs connaissent bien, ceux qui nous écoutent souvent. Et j'avais beaucoup aimé, mais je n'avais pas regardé d'autres films de ce garçon. Et cette année, j'en ai vu 3 ou 4 autres, et parce que j'ai donné suite, et il fallait que je donne suite, parce que c'est un réalisateur qui est fantastique, et qui a été l'élève de David Foster Wallace, hein, faut quand même le préciser, rien que ça aurait dû m'intéresser, j'aurais dû regarder depuis longtemps. C'est chose faite, j'en ai regardé d'autres, j'ai regardé Phantom Thread, j'ai regardé plein d'autres.
Licorice Pizza.
Et j'allais conclure sur tout début de l'année, il a sorti Licorice Pizza, qui est pour moi mon film de l'année. C'est une super belle histoire d'amour, pas gnangnan pour un sou, superbement bien mis en scène, super acteur, plein de bonnes idées, assez postmoderniste aussi, parce qu'il y a des choses qui cassent un peu le quatrième mur parfois, pas dans l'histoire mais dans le choix des acteurs, etc., par exemple. Et c'est fantastique. C'est voilà, pitié, Paul Thomas Anderson, c'est vraiment un... Tout le monde le connaît, il est très connu pour les cinéphiles, il est très reconnu, il était temps que je m'y mette. C'est mon prix Marty McFly.
Écoute, tu as, excuse-moi Florian, je me permets d'interrompre avant que tu ne reprennes la parole, mais tu as validé mon prix Marty McFly, je valide complètement le tien, Licorice Pizza. Franchement, meilleur film de l'année.
Bah,
très
ouais.
Bon,
c'est
très
mon film
bon...
de l'année aussi.
Ouais, très très bon choix.
Florian.
Je vais vous parler de mon prix Marty McFly. Effectivement, en 2021, j'écrivais comme phrase de conclusion des Alien Awards: j'espère que t'as réussi à avoir une PlayStation 5 et que Cyberpunk, au final, c'est pas si mal. Eh bien, devinez quoi, après 2 longues années d'attente, j'ai enfin eu une PlayStation 5, effectivement. et j'ai joué à Cyberpunk, et au final, c'est pas si mal. Donc je vais pas plus développer, j'en ai déjà parlé longuement dans les recommandations de l'épisode 73, il me semble. Mais non seulement c'est jouable, mais c'est en plus ça très beau. J'ai passé beaucoup de temps à me balader sur la map au guidon de ma moto, parce que c'est injouable au volant d'une voiture. Mais c'est pas grave, à désinguer de ledge runner à tout va sans être repéré. Il y a plein de défauts, c'est, je pense, trop ambitieux. Des quêtes qui parfois ont un peu un goût vanille, un personnage principal qui est peut-être un peu froid, mais au final j'y ai passé un très bon moment, et est-ce que c'est pas ce qui compte malgré tout? En tout cas, je suis très pressé de voir ce que va devenir Cyberpunk 2, et parce qu'avant Witcher 3 il y a eu deux Witcher, mine de rien, et avant GTA 4 il y a eu quatre boutures sympas mais pas folichonnes non plus.
Donc, bien plus que toi.
Oui, en plus. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi rêver et laissez-moi apprécier mon Cyberpunk tranquillement.
Tu as fini ton prix Marty McFly ou pas encore?
Alors, j'en ai quand même deux autres, qui étaient Limbo et Inside, en plus de ça. C'est des jeux que j'ai pas besoin de présenter. Hein. Vous regardez sur Internet, je pense que vous voyez très bien ce que c'est comme jeu. J'y ai joué que cette année, et je pensais que j'avais joué depuis plus longtemps que ça, mais en fait ils étaient dans mon wrap-up Switch 2022. Donc je les ai lancés cette année pour la première fois, et je les ai terminés bien sûr dans la foulée quelques heures après quoi. Donc Limbo et Inside sont mes prix Marty McFly
les nominés,
à
quoi.
Égalité avec Cyberpunk quoi.
Ils sont deux jeux du même studio qui s'appelle Playdead.
Exactement, Limbo, studio Inside, danois, voilà.
Bah, très bien.
Tu voulais commenter peut-être, Vic?
Non. Je voulais savoir si tu avais terminé ton prix Marty McFly, et également savoir si tu mettais la série également dans ça ou.
Bah
ou
non,
quoi.
Parce que là on est vraiment sur le prix Marty McFly qui
oui,
était temps de consommer.
Oui, c'est vrai.
Donc, par contre, j'avoue que la série Edge Runner m'a cruellement décidé d'acheter une PlayStation 5, et du coup de relancer Cyberpunk après. Après toutes ces mises à jour qui le rendent enfin jouable, c'est pas un prix Marty McFly, mais ça m'a aidé à faire mon prix Marty McFly. Merci la série Edge Runner, qui ne sera pas renouvelée d'ailleurs, et c'est pas plus mal. Merci beaucoup, ça fait du bien, les séries qui sont en une saison et qui savent s'arrêter au bon moment. Je sais pas s'il y a un prix pour ça, mais ça devrait exister.
Le prix Grey's Anatomy, qui récompense quelque chose d'inassumable mais qu'on a aimé.
On va commencer par Thomas cette fois-ci. Thomas, quelle est la chose inassumable pourtant que tu as aimé?
Bah voilà, c'est toujours pareil. Chaque année on le dit, ce prix-là on va finir par l'éliminer, mais on assume tout, donc c'est difficile de trouver un truc vraiment inassumable. Donc j'ai quand même dû trouver quelque chose et j'assume complètement, et c'est vraiment pas honteux, hein. Mais je le décerne à mon prix Grey's Anatomy, je le décerne au Sorceleur, le livre de André, nudiste partout sauf à la montagne, André Sapkowski. J'ai déjà fait la vanne dans notre podcast, dans notre épisode.
Absolument,
je la recycle.
Mais,
c'est ça l'écologie.
Mais toujours aussi drôle.
Voilà. Et donc,
c'est ça la sobriété, Thomas.
Bah oui. Pourquoi? Bah parce que c'est pas tout le temps très bien écrit. Les dialogues sont vachement bien, je trouve, mais après le reste, ouais, on sent que c'est un peu branlant. C'est pas de la grande littérature, mais écoutez, quand on est fatigué et qu'on a envie de se plonger dans un univers un peu cool, et bah moi ça me va bien, et j'ai lu que maintenant ce livre, que j'avais acheté depuis un moment en plus, à l'occasion de, je l'ai lu au moment, en même temps que j'ai relancé une partie sur The Witcher 3. Et bah écoutez, c'est très bien, je suis très content de faire ça, et j'assume mon prix inassumable.
C'est au final un petit peu ton prix pantoufle, ton prix charentaise.
Ouais, mais
lequel tu te sens bien, quoi.
Le truc, c'est que chacun de mes prix cette année sont des prix pantoufles, hein, donc c'est compliqué.
Ça, c'est un prix qu'on devra certainement rajouter pour l'année 2023, le prix charentaise.
Charentaise Uniqlo.
Charentaise Uniqlo, exactement. Et toi, Vic, quel est ton prix Grey's Anatomy?
Bah, alors déjà, avant de dire mon prix Grey's Anatomy, je tiens quand même à dire que je suis pas tout à fait d'accord avec Thomas. Moi, j'ai quand même sorti des prix à l'époque, je vous laisserai réécouter, je les reciterai pas, mais des prix quand même assez inassumables. Mais bon, bref, je ne reviendrai pas sur ça. Cette année, mon prix Grey's Anatomy est attribué à faire des portraits de moi à une IA. Voilà, ça fait longtemps que j'avais cette idée, cette envie de faire un truc un peu avec toujours ma tête, un peu à la Martine Parr. J'aime pas trop ma gueule, comme généralement on n'aime pas trop sa gueule. Et du coup, je poste rien sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis plutôt un watcher que quelqu'un qui les utilise. Mais néanmoins, ça me faisait marrer cette idée d'autoportrait comme ça. Un petit peu avec des filtres, peut-être ouvrir une page sur un réseau social avec ce truc-là. J'aime bien cette idée un petit peu comme une espèce de thérapie slash conceptuellement un petit peu sur la culture du selfie, comme si ma tête était un peu un masque. Bon, je ne l'ai jamais fait. Et puis, cette année, 2022, est arrivée, ou peut-être probablement avant, mais en tout cas l'année où je l'ai découvert, les applications d'intelligence artificielle qui permettent justement de faire ce genre de conneries que tout le monde enfin que plein de gens ont essayé. Du coup j'ai testé, du coup j'ai sur mon téléphone 50 captures de moi avec ma tête en astronaute, ma tête en chien, ma tête en vieux, ma tête en machin sous tous les angles
et tout. Et ça rend bien ou pas?
Franchement, c'est justement, je trouve, pour l'instant je l'ai pas mieux ou plus utilisé que quelqu'un qui a fait ça comme n'importe qui en fait. mais effectivement, de voir ce mur de tête de toit en chauve, en machin un peu différent, etc., dans des styles de peinture différents avec des esquisses japonaises du 15e siècle et tout. Ouais, c'est ce qui est marrant, c'est de voir toutes les unes à côté des autres. Donc, je saurais pas te dire si ça rend bien ou pas, mais c'est rigolo à faire en tout cas, oui.
T'as utilisé quoi comme application?
Alors, j'ai pas mon téléphone sous la main, mais je te donnerai. Il y en a deux et c'est des applications. Alors, ils ont développé des business models avec faut que tu payes, mais en gros, t'as 5 jours pour utiliser le truc avant de payer. Donc, j'ai fait ça dans les 5 premiers jours, puis après, j'ai désinstallé les trucs. Mais je sais plus, je crois que ça s'appelle Lens AI peut-être ou quelque chose comme ça.
Luma AI, ça te dit un truc?
Peut-être Luma, je sais plus.
J'ai l'impression que c'est la plus connue. Ouais,
il y en a deux, trois, et voilà, je sais plus, mais je pense que c'est un peu toute la même idée, ouais.
Ah, ça n'a rien à voir, je suis en train de regarder Luma AI, c'est pas du tout ça. Bon, très bien, mais merci beaucoup Vic. Moi aussi j'aimerais bien, je crois qu'on s'en était parlé en plus avec Thomas de faire ça et on l'a jamais fait non plus. Quelle déception. C'est trop tard maintenant, on peut plus faire ça, on n'a plus le droit.
Florian,
c'est dans la loi.
Quel est ton prix? Je te lance un peu parce que t'as personne pour te lancer.
Ah oui, c'est vrai, oui, puis j'avais même oublié, moi je serais passé au prochain prix. Hein. Je vous ai envoyé une vidéo sur un autre canal de discussion, mes chers amis, et pour les auditeurs, vous avez un passage audio dès maintenant.
Ah là là, vous avez passé des heures à préparer cette purée de pois cassés, vous la présentez à votre enfant, et là, ah, oh, j'en veux pas! Alors certes, notre orgueil peut être touché, on peut même avoir des réactions plutôt agressives. Si, tu vas goûter, j'en ai marre, j'ai passé du temps à faire ceci. Lorsqu'on est dans ce rapport de force, c'est perdu d'avance. Donc on va essayer de temporiser, et surtout, se préparer mentalement à cet événement.
tu suis des dadfluenceurs, c'est ça?
Alors, cette gentille, mais un peu étrange personne s'appelle Papa Positive. Alors Papa Positive, c'est un homme aux cheveux, vous avez vu, ma voix a déjà changé, elle est beaucoup plus chaleureuse et rassurante. Papa Positive, c'est un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux verrons, pour ceux qui ne le connaissent pas, et pour les auditeurs du coup qui n'ont qu'un extrait audio, et qui apprend à travers ses vidéos à éduquer positivement sa progéniture. Alors moi je dois avouer que j'ai jamais vraiment été inquiété de comment élever mon enfant, je me suis toujours dit que de toute façon...
l'instant.
Exactement, mais je me suis toujours dit en tout cas que je ferais ce que je pourrais et que s'il n'est pas en prison avant ses 18 ans, c'est déjà pas si mal. Et pourtant, dès que je tombe sur une vidéo de Papa Positive, je la regarde et je rate pas une miette. Et je sais pas si c'est sa voix ou sa façon de parler, je sais pas trop, mais je trouve ça super hypnotisant. Et du coup, maintenant, sans y prêter attention, j'applique ses conseils et ses éléments de langage. Je suis devenu moi-même un véritable Papa Positive. Je valide les émotions de mon enfant, je suis bienveillant et je l'accompagne dans ses prises de décision en toute autonomie. Et après, quand ça marchera plus, je cognerai très fort, mais toujours de manière bienveillante. Promis.
Est-ce que tu voudrais que ça soit ton papa?
Non, parce qu'il m'énerverait énormément. Je pense qu'il y a certainement un entre-deux à trouver, mais en tout cas, c'est mon prix Grey's Anatomy parce que c'est pas forcément quelque chose d'assumable. Mais j'aime bien, c'est mon petit truc qui me permet de me faire sentir un peu mieux dans mon rôle de père qui tape son enfant.
Je regarde comme ça, sans le son du coup, parce que la vidéo est assez longue. Il a l'air quand même un petit peu énervant. Ça, c'est la première chose. Et surtout, il fait toujours son effet de karaoké sur ces textes-là qui...
Ah bah ça, c'est les contenus Facebook et TikTok et compagnie. Hein, tu sais, hein, c'est souvent sous-titré et tout ça. Hein.
Ah ouais, ouais.
Ouais, c'est pas glorieux, mais en tout cas c'est comme ça que ça marche. Et mais oui, mais il est aussi énervant que n'importe quelle personne trop gentille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les personnes qui sont trop gentilles, elles sont toujours un brin énervantes. Bah effectivement, elle est un peu énervante, cette personne, mais pourtant je l'écoute, voilà.
C'est un bon prix Grey's Anatomy.
Le prix Nietzsche Fabian, qui récompense ce qui ne me tue pas et qui me rend plus fort.
Et si tu commençais, Florian ?
Eh bien, volontiers, pour beaucoup de catégories, et celle-là, c'est certainement la première. J'aurais tout simplement pu répondre « avoir un enfant », mais je vais éviter d'être un peu redondant, parce que je pense que ça va m'arriver d'autres fois, et je vais plutôt vous dire ce qui ne me tue pas et qui me rend plus fort, c'est le quotidien. Alors, c'est une pirouette, genre façon triple salto arrière, c'est vrai, mais avec un gamin vient les plannings serrés, les jours qui se ressemblent tous les uns après les autres, et j'appréhendais pas mal, mais au final, c'est pas si mal quand même le quotidien, non ? Certains diraient que ça manque d'aventure, de surprise. Mais est-ce que des petites pantoufles, des charentaises, on en parlait juste avant, des petites charentaises molletonnées, c'est pas mieux que des grosses bottes d'aventurier qui font mal aux pieds ?
Ça me rappelle une chronique sur les PNJ, ça.
C'est vrai ? Je me rappelle même plus des chroniques, c'était une chronique à moi, j'imagine.
C'était une chronique... Ouais, c'est à toi. Sur les PNJ qui partaient pas à l'aventure et qui voyaient les aventuriers passer et repasser, enfin bon, bref.
Là, c'est plutôt l'inverse. Là, c'est plutôt un aventurier qui se dit que c'est pas si mal d'être un aubergiste et de rester au confort de son feu de cheminée dans son auberge, quoi.
Après, j'ai quand même envie de dire, heureusement que le quotidien ne te tue pas, quoi.
Non, c'est ce que je disais, ça pourrait me tuer, mais est-ce que ça me rend plus fort, ça je sais pas, mais en tout cas ça me tue pas et c'est déjà pas si mal, et j'apprécie d'autant plus le quotidien désormais, et voilà, c'est une bonne chose le quotidien, sachez apprécier les petites choses de la vie, sachez apprécier les chaussons molletonnées et les charentaises, c'est très agréable.
Très bien.
C'est vraiment une pirouette, hein, parce que ça c'est pas trop, c'est ni Nietzsche. Ni Fabian quand même, hein. C'est la pirouette de fou, mais bon. Parce qu'en plus il est dur celui-là, je sais pas Thomas, je te laisse dire le tien, mais c'était compliqué.
Bah moi mon prix Nietzsche Fabian est attribué à la non-écriture de mon premier roman, tout simplement, et que vous dire de plus quoi, j'étais pas loin, hein. J'ai toujours un bon plan, un plan bien structuré, bien carré, les bonnes idées, un bon premier tiers peut-être, ou un premier quart, quelque chose de plutôt bien écrit quand je me replonge dedans, mais et j'en suis plutôt fier honnêtement, et pourtant je suis difficile avec moi-même. Mais la maladie a frappé, quoi. La maladie a frappé, le manque de temps a frappé, et là, j'ai plus touché à rien du tout depuis longtemps, quoi. Mais ça m'a rendu plus fort. Écoutez, je suis plus doux avec moi-même, j'ai appris à ne pas m'en vouloir, et voilà. Et le jour où je reviendrai plus fort.
tel le phénix. On rassure quand même les auditeurs, on dirait que tu parles d'une leucémie.
Non.
Non, Thomas n'a pas de leucémie, on préfère rassurer tout le monde. Mais ton premier roman... c'était une de tes bonnes résolutions, je crois, justement de la fin de l'épisode dernier. Non,
non mais n'essaye pas de m'enterrer là.
Non. Au contraire, je disais que franchement, ça va. Si en un an, t'as un plan dont t'es content, t'as quelques pages, franchement, je te rassure, ça va. T'es en bonne voie. C'est pas un petit arrêt sur la voie du succès, sur les rails du succès qui vont t'empêcher d'aller très loin, Thomas.
Et pour être plus proche encore du roman de Thomas que du coup les auditeurs hein, qui n'ont rien lu, j'ai eu l'occasion d'en lire des passages et d'en connaître un petit peu plus, je confirme ce que dit Florian, ça c'est mon premier point. Effectivement, tu as bien avancé, même si ok, il n'est pas écrit, mais bon, les résolutions, on sait tous, voilà. Tu as quand même bien avancé, et surtout ce que je note, c'est que c'est bien qu'il soit dans ton prix Nietzsche Fabian. Parce que pour le coup, toi, tu n'as pas triché. Tu dis ça ne t'a pas tué, mais tu reviendras plus fort. Tu n'as pas fait une pirouette, donc moi, je trouve ça positif. Donc bravo,
merci,
Thomas.
C'est gentil.
Et toi, Vic ?
Moi, il va être un peu redondant avec le prix d'avance. Honnêtement, j'ai galéré. C'est le dernier que j'ai trouvé. J'aurais envie de ne pas donner de prix Nietzsche Fabian parce que aussi bien Nietzsche que Fabian, bah, je suis pas d'accord avec ça. Parce que moi,
tout a tué et rien ne t'a rendu plus fort, c'est ça ?
En fait, c'est surtout que ce qui me tue, en fait. Et ça s'arrête là. Donc du coup, voilà, c'est pas vraiment une pirouette. C'est pas vraiment non plus un vrai prix. C'est un petit prix Nietzsche Fabian pour ma part. Assez récent et dont je ne suis pas forcément certain, redondant avec celui d'avant, je l'attribue à ChatGPT. Car comme voilà, ChatGPT, je parlais des IA, des intelligences artificielles qui donnaient lieu à des images dans mon prix d'avant, ici qui donnent lieu à de l'écriture. Hein. Vous l'avez maintenant, les auditeurs compris, on travaille dans le milieu de la publicité, donc il y a une partie de rédaction. Or, ChatGPT est un rédacteur qui parle, qui écrit quand même mieux que 90% des gens, j'imagine. Et que bien des rédacteurs de part et d'autre du pays. Donc ça ne nous tue pas en tant que rédacteur, mais j'imagine qu'il y aurait, je ne les ai pas encore, des choses à trouver, à utiliser. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. C'est un petit prix. Je ne suis pas sûr de moi-même. Voilà.
Est-ce que ça t'a rendu plus fort ?
Je pense que ça ne m'a pas encore... C'est ce qui ne m'a pas tué et me rendra peut-être plus fort. Voilà.
À l'occasion.
Voilà.
Très bien. Mais je pense que c'est une, c'est un bon prix, Nietzsche Fabian, à ce moment-là. C'est validé. Je valide ton prix.
Le prix moutarde au condiment, qui récompense la déception de l'année.
Vas-y Florian.
Vous voulez que je commence encore ?
Ouais.
Bah, moi j'en avais pas jusqu'avant et ma chère étante m'a fait part d'un élément effectivement qui était assez décevant cette année. Je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis assez réputé pour comment le dire sans être sale, pour mon estomac, pour mon intestin, pour ma façon à digérer les aliments et à aller à la selle de manière régulièrement sans aucun problème, sans aucune gêne. Voilà, je l'ai dit vite, comme ça paraît un peu moins sale. Donc la déception de l'année, c'était mon estomac, c'était mon système digestif de manière générale, parce que pour ceux qui le savent, c'est-à-dire les deux personnes qui sont avec moi en train d'hoster ce podcast, j'ai une gastro.
Ah bah on y vient.
Et mon estomac, mon système digestif m'a fait faux bond.
Tu vois
mon
que t'es spongieux.
Mon système digestif. Et effectivement, c'est vrai que j'ai été, en tout cas, ces deux derniers jours, très spongieux. Et voilà, j'en rajouterai pas plus parce que c'était déjà assez gênant et assez sale comme prix moutarde au condiment. Surtout qu'en plus, le prix s'appelle moutarde au condiment.
C'est clair.
Mais voilà, je pense que c'était ma plus grosse déception de l'année. C'était mon estomac, mon système digestif.
On tombe toujours sur plus fort que ça un jour ou l'autre.
C'est ça. Mais j'avais pas eu de gastro depuis... Je faisais réflexion à ma chère étante. J'ai pas eu de gastro depuis mes 19 ans, je crois. Donc ça remonte quand même, quoi. Ça fait...
Et à l'époque, tu lui avais pété la gueule en quelques heures.
À peine. Tu vois, j'étais allé au McDo et c'était terminé, quoi.
Ouais, je comprends. C'est un beau prix moutarde. Un beau premier prix moutarde de condiment. Bravo, Florian.
Merci beaucoup. Et toi Vic, du coup, pour la peine, c'est quoi ton prix moutarde au condiment ?
Eh bien, je vais être redondant, pas vraiment avec moi-même, mais je vais être redondant avec Thomas. Là où tu avais eu le côté positif de l'attribuer au prix Nietzsche Fabian, je l'ai attribué moi au prix moutarde au condiment. Alors c'est un petit peu différent, parce que moi je pense être plus loin que toi. Mais moi, voilà, je l'ai écrit comme ça, on tourne en rond, mais mon prix moutarde au condiment est attribué à l'impossibilité d'écrire. Donc c'est d'une manière un peu plus négative, c'est un Alien Awards très négatif, mais en même temps, comme je disais, année 2022, bof bof. Plutôt, en tout cas, quand je dis l'impossibilité d'écrire, l'idée était de dire l'impossibilité de prendre du plaisir à écrire, même si, on le sait, on l'a déjà évoqué, c'est toujours difficile d'écrire, ça fait toujours mal. Mais là, impossibilité d'écrire effectivement un roman, impossibilité d'écrire même Alien et les garçons, hein, vous l'avez peut-être remarqué, souligné en tant qu'auditeur, on est à la fois... On est un petit peu, voilà, vous avez vu que Alien et les garçons, il y avait maintenant et les garçons, c'était, on a déjà évoqué nos difficultés d'écriture, en tout cas moi elles sont bien là, d'écrire même pour moi ce que je faisais énormément avant, des dizaines et des dizaines de choses diverses et variées, qu'on fait le greffon de cyborg de l'épisode 1 justement de et les garçons. Donc voilà, attribué à l'impossibilité d'écrire. J'espère que comme la moutarde de manière générale, ça reviendra. Mais en tout cas, c'est mon prix de cette année.
Merci.
D'ailleurs, j'aimerais préciser que la personne qui a écrit le titre de chacun de ces prix s'appelle Thomas. Parce que je ne suis pas d'accord en fait avec ce prix. La moutarde de condiment, pour moi, c'est pas une déception. Hein.
Attention, il y a débat. On ouvre le débat.
On va pas débattre maintenant.
Et
si on l'a placé sur le. Non, on la placera pas là parce qu'on n'a pas le dossier sous les mains. Mais on placera dans le prochain épisode des Les Garçons la moutarde de condiment dans le grand reclassement.
Ah, bonne idée.
Je pense qu'il faudra et je pense que je vais me heurter à un mur d'incompréhension, mais c'est pas grave.
Pour sûr.
Toi, Thomas,
très vite parce que à nouveau, moi aussi, c'est dur à ressasser. Je me demande si c'est pas déjà mon prix moutarde au condiment l'année dernière. Cyberpunk. Encore.
L'année dernière,
j'y avais pas joué parce qu'il était sorti dans un état pas possible. Cette année, j'y ai joué et j'ai pas aimé. C'est un jeu très moyen et qui tient pas du tout ses promesses. On va pas en faire des tonnes. J'y rejouerai peut-être un jour ou pas. C'est mon prix moutarde au condiment comme l'année dernière. Voilà.
C'est encore plus violent avec aussi peu, surtout après ce qu'a dit Florian sur son prix de je sais plus lequel prix, mais qu'il l'a attribué.
Marty McFly.
C'est encore plus violent que tu donnes pas de détails. Tu as été péremptoire c'est mauvais. Et
c'est
voilà,
un
c'est
jeu,
tout.
On en a parlé, ça fait, je crois, le premier trailer, il est sorti il y a 8 ans, un truc comme ça. C'est un jeu, la moitié de son budget, ça a été du marketing. C'est un jeu dont on a parlé tout le temps, partout. De ouf, avant qu'il sorte, quand il est sorti, encore après avec les mises à jour, on en a trop parlé. Ce jeu est beaucoup trop... Il mérite pas qu'on en parle autant, quoi. Il est pas mauvais, mais il mérite pas qu'on en parle autant. Il est puni, il va au coin. Vilain, Cyberpunk.
Ça, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup trop d'attention, beaucoup trop de blabla autour de ce jeu. Et toi...
On a fait le
personne.
Et toi, poster inconnu.
Et toi, la personne qui n'est pas là. Eh bien, très bien. On a fait le tour de la moutarde au condiment. C'est pas mal. Passons au prix suivant, si vous le souhaitez.
Le prix Doudoune sans manche, qui récompense la plus belle progression en termes d'adulting.
C'est quoi ton prix doudoune sans manche, Thomas, cette année?
Alors moi, c'est en termes d'adulting, j'ai beaucoup beaucoup de progrès à faire, hein, comme chacun le sait. Je sais plus ce que c'était l'année dernière, mais bon, cette année, moi, j'ai mis le prix doudoune sans manche est attribué à me soigner, aller voir des médecins et faire en sorte d'aller mieux et pas juste me laisser mourir dans un coin d'appartement, j'ai noté, pour être exact, parce que j'avais un peu tendance à être comme ça et je pense que c'est probablement l'arrivée de ma fille qui m'a fait bouger le cul à me dire ok, on va aller peut-être un peu soigner tous les trucs qui traînaient depuis trop longtemps, etc. Et bah écoutez,
comme cette vilaine leucémie.
Exactement, et c'est pas si mal, c'est bien, il faut se soigner, santé physique, santé mentale, prenez soin de vous. Et je dis ça notamment aux mecs, parce que les mecs, on les voit, les mecs du fond là qui jouent au viril. Et bah, ils vont pas bien, il faut qu'ils aillent voir un psy. Hein, les mecs là au fond, là, qui font les durs, vous les voyez flexer ou pas? Et bah, c'est eux, arrêtez vos conneries. Voilà. Mon prix de tout sans manche, c'est me soigner.
J'ai tellement de trucs à me faire soigner. J'ai mal aux pieds quand je me lève et tout. Quand je me lève, je sens pas mes doigts de pied. Je sais pas si c'est normal. Et je me dis que peut-être que j'allais consulter.
C'est clair. T'as ton estomac ça, aussi à soigner en ce moment.
Et ça, c'est un détail. Non, mais attends. Mais je veux pas revenir sur cette déception de l'année. Mais je me demande si avec l'âge, on prend pas plus cher aussi contre les maladies.
No joke.
Je me demande si les maladies, elles gagnent pas de l'XP par rapport à nous, tu vois quoi. Nous, on perd quoi. On perd face à la maladie au fur et à mesure qu'on vieillit. On est vraiment pas bon quoi.
Quel est ton prix, Florian? Ton prix.
Moi, ça va aller très vite. Je me suis paxé cette année. Voilà, je pense que c'est une belle progression en termes d'adulting.
C'est vrai.
On n'est pas au niveau du mariage, mais voilà, c'est certainement la chose la plus adulte que j'ai fait cette
Après,
année.
Après, le mariage, c'est pas au niveau du divorce non plus. Donc...
On n'en est qu'à la saison 4, Thomas. saison 5.
Saison 15, on en reparle. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Très bien.
Et toi, Vic?
Moi, ça va être très, très, très court, puisque mon prix de doudoune sans manche est attribué à me marier. Je pensais pas me marier un jour. Qui se marie encore aujourd'hui, hein? On pourrait se poser la question.
Je me suis
quand même marié, c'était chouette. En plus, j'ai fait deux mariages la même année. C'était deux moments.
Tes deux femmes sont fantastiques.
Mes deux femmes sont vraiment fantastiques, donc je suis ravi. Voilà, c'était mon prix de doudoune sans manche.
Très bien.
Le prix Julien Teloup, qui récompense le jeu vidéo de l'année.
Moi, ça va être difficile. Hein. Commençons par Thomas, parce que
oh là là.
Moi, c'est pas glorieux.
Oh là là, vous m'entendez? Je dis oh là là. Alors,
oh là là.
Cette année, comment vous dire, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo. Et j'ai joué à beaucoup de jeux excellents. Alors du coup, je sais que ça va faire crier Vic,
non.
Mais j'ai décidé de vous faire un top 5.
Oh.
Et mon top 1, ça sera mon prix Julien Teloup, ok? Et je vous préviens, le top 1 risque de vous surprendre.
Ah.
Alors, top 5, le top numéro 5.
Marvel Snap.
Non, Tunic.
Ah, intéressant.
Tunic qui, en vérité, il mériterait d'être plus haut dans mon top, mais, enfin, dans un top objectif, mais il y a des jeux, j'ai des jeux coup de cœur qui sont moins bien, mais que j'ai mis plus haut, ok. Tunic, c'est une sorte de soul-like qui avance masqué. Et qui peut plaire à tous les Nintendo sexuels, et juste pour ça, c'est fantastique. Il faut jouer à Tunic, vraiment. Si vous aimez, si vous n'avez pas peur du challenge, jouez à Tunic. Je vais pas.
Même moi, il me tente.
Ah, mais il faut que tu joues. Il est brillantissime, ce jeu. Il est vraiment brillantissime. Je vais pas trop m'étendre sur chaque jeu, sinon on va pas y arriver. Top 4, Inscription. On en a déjà parlé. Méta à souhait, intelligent à souhait, déstabilisant à souhait. On n'en reparlera pas plus. Inscription. Top 3, Pentiment. Vous voyez ce que c'est, Pentiment?
Ouais.
C'est un jeu où, c'est un jeu narratif où tu mènes une enquête un peu à le nom de la rose, et les graphismes sont faits en enluminure, un peu comme dans un vieux grimoire moyenâgeux. C'est fantastique, c'est un jeu très imparfait qui a plein de défauts, mais qui est vraiment bourré de charme et d'originalité. C'est mon top 3. Il est objectivement moins bon que Tunic, par exemple, mais c'est mon top 3, je l'adore. Top 2, et là ça sera peut-être une surprise pour vous, mon top 2 est attribué à Elden Ring, qui n'est donc pas mon top 1.
Putain, mais tu me voles mon prix de Julien Télouk également.
Bah ouais, bah, peut-être. Oui, je pense que tu m'as déjà démasqué. Elden Ring, j'en parle très rapidement parce que tout le monde en a parlé. C'est le jeu de l'année de tout le monde, en fait. Vraiment, c'est le GOTY, pas pour rien.
Mais c'est clairement le jeu de l'année, quoi.
C'est le jeu de l'année, point. Et dans 20 ans, on en parlera. Dans 30 ans, on en parlera encore. C'est certain, c'est un jeu vertigineux, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a aucun l'ombre d'un doute que ce jeu est fantastique. C'est l'aboutissement du studio From Software. Je ne sais pas ce qu'ils feront derrière. Bon, voilà. C'est le jeu des superlatifs. On l'a dit. Mon top 1. Mon prix Julien Télouk est attribué à Disco fucking Elysium. Disco Elysium. Jeu fantastique qui est sorti en 2019, mais qui est sorti cette année sur Switch. Donc je me le mets en. Et donc moi j'ai joué que cette année parce que j'attendais qu'il sorte sur Switch
pour être confort.
Donc c'est mon prix Julien Télouk, c'est mon jeu de l'année, c'est mon GOTY, c'est Disco Elysium, qui est un jeu qui m'a foudroyé et que j'aime de tous les atomes de mon corps. C'est des personnages fantastiques, aucun n'est insignifiant, ils bénéficient tous d'une écriture profonde. C'est un jeu pour les gens qui aiment lire, qui aiment la littérature. Je n'ai jamais vu un jeu vidéo, et je joue beaucoup, aussi bien écrit, c'est aussi bien écrit qu'un livre. Et Kim Kitsugari. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Drop mic.
Voilà.
Mais c'est très bien que tu aies autant de jeux, parce que moi j'en ai quasiment pas.
Ouais.
Donc non, je vais laisser la parole à Vic, à part si quelqu'un veut commenter ce top 5 qui me paraît moi tout à fait cohérent et acceptable.
Ouais, tout à fait. Je suis d'accord, je ne commenterai pas parce que voilà, j'ai le même prix Julien Télouk. Pourtant moi, 2022 et jeux vidéo, ça a été une année plutôt pauvre de mon côté. Après, avec le Game Pass, j'ai pu tester tout un tas de jeux, mais plutôt, j'en ai plutôt pas mal effleuré, quoi. J'ai pas mal joué, mais très peu à chacun. Mais du coup, j'en arrivais pour dire que j'avais pas, moi, c'est toi, Thomas, hein, qui m'a conseillé, entre autres, il y a toi, il y a Kim aussi, qui m'a conseillé Disco Elysium, que j'ai fini
par... Alors, Kim, ce n'est pas Kim Kitsugari.
Non,
Gary, hein.
Non, ce n'est pas Kim de Disco Elysium, c'est un autre Kim. Bref, du coup, j'ai commencé il y a un mois et demi à peu près, et effectivement, on tombe très vite dedans, et on a envie d'y revenir, on a envie de tout le temps y revenir. Ça se joue effectivement comme on pourrait lire un super bouquin. Donc, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Voilà, c'est un jeu qui est défini par la presse comme le jeu au million de mots, hein, donc avec pas mal de possibilités de le jouer dans pas mal de sens différents. On est entre le CRPG et le point and click, en gros, pour ceux qui n'auraient aucune idée de à quoi ça ressemble. Direction artistique assez chouette. Voilà, en gros, pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, mais je vais pas approfondir, ce que vous irez voir si ça vous intéresse. Mais en fait, on joue avec 24 de ces compétences qui sont réparties en 4 catégories générales, qui sont en fait 24 personnalités de son personnage, hein, donc qui s'appelle Harry Dubois, qui est un enquêteur. Et en fait, en discutant avec chacune de ces personnalités, en attribuant plus ou moins de points à chacune de ces personnalités, un petit peu comme dans un RPG, on attribuerait des points à différentes caractéristiques, et bien, du coup, ça va nous proposer une expérience de jeu différente. Donc, bref, je n'approfondis pas plus sur le gameplay. Le monde développé dans ce jeu est vraiment fou en termes de dimension politique, culturelle, religieuse. Enfin, ils ont vraiment poussé tous les curseurs au maximum de la qualité, donc c'est très agréable. Ça a été développé J'ai rajouté ce que, s'il me semble, en plus on a quand même ici pour la première fois, il me semble, des Alien Awards, un double prix Julien Teluk. Donc ouais. Rendons à Julien Teluk ce qui appartient à Julia Teluk en précisant que le studio de développement est un studio indépendant estonien qui s'appelle Zaum, qui est en référence au langage Zaum, ouais. Qui était un langage imaginé par des poètes russes au début du 20e siècle, qui est un projet culturel russe qui a complètement foiré, en fait, qui est mort un peu dans l'œuf, et du coup ce studio a décidé de s'appeler comme ça, enfin, a décidé de prendre le nom d'un mouvement mort-né, et ça en dit long sur leur personnalité, ouais. La personnalité des fondateurs qui sont des punks socialistes absolument intrigants.
Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que Zaum, avant d'être un studio, c'était un collectif artistique. C'est-à-dire qu'il y avait des écrivains, des musiciens, des peintres dedans et qui ont décidé d'un moment donné de dire eh putain, les gars, on va faire un jeu vidéo en fait. Et c'est devenu un studio de développement. Donc, et c'est ça, je pense, qui fait que ce jeu est tout à fait particulier. C'est que ce sont des artistes avant tout. Le game design, le lead game designer, Robert Kurwitz, il était musicien. Il a écrit un roman avant de faire ce jeu vidéo-là, qui est son premier jeu vidéo. Et c'est ça qui fait certainement que ce jeu il est unique et que c'est un ovni. Il n'y a pas d'autre jeu comme Disco Elysium.
Exactement, pour Robert Kurwitz, donc, ou Alexander Rostov, qui lui est le directeur artistique du jeu et qui est peintre en fait. Et du coup, effectivement, le jeu, quand on le regarde, s'approche effectivement des stampes. On est très dans. Il y a un côté aquarelle, mais ouais. qui permet de rentrer dans cet univers et où tout est vraiment très, 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 très cohérent. Donc, ils ont. Les débats font rage sur Internet et Reddit, mais ils ont vraiment révolutionné, selon moi, et selon Thomas, je pense que tu ne me contrediras pas. Certains le contredisent sur Internet, c'est un débat. Il reste ouvert, mais en tout cas je pense ont révolutionné le RPG, alors pas en termes de game design, il est plein de défauts ce jeu,
mais ils l'ont modernisé en tout cas quoi.
Mais ils l'ont modernisé et puis ils sont partis quand même d'un truc qui disait ok, on a développé depuis les premiers RPG, depuis Baldur's Gate, depuis depuis tous ces RPG qui ont fait comment dire qui ont été des pierres angulaires un peu du jeu vidéo et du RPG. Le gameplay a beaucoup évolué, même si bon, c'est pas forcément le secteur du jeu vidéo où ça a le plus évolué, mais en tout cas le gameplay a quand même évolué dans les jeux, là où l'écriture des jeux a pas tant évolué et reste quand même souvent, alors t'as des jeux qui sont
médiocres,
plus ou moins bien écrits, mais souvent médiocres, et du coup ils ont vraiment poussé les curseurs à fond sur l'écriture et le scénario, et c'est 4 Game Awards, dont meilleure narration, meilleur jeu de rôle, meilleur premier jeu indépendant et meilleur jeu indépendant tout court. Et c'est mérité.
Ouais, permets-moi de rebondir sur ce que tu dis. Je vais en rajouter une couche aussi, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Tu parlais des Game Awards. On adore aussi les Gadzoom parce qu'ils ont gagné 4 Game Awards et pour le 4e Game Award, ils ont quand même remercié. Ils sont montés sur scène au Game Awards aux États-Unis. Ils ont dit l'écrivaine lead qui a écrit ça.
Hélène,
qui a remercié Marx et Hegel pour leur éducation politique, parce que ils sont communistes, tous les gens de Zaum, ils sont tous communistes. Et sur la scène des Game Awards, qui est une grande messe du capitalisme et de l'industrie du jeu vidéo, ils ont remercié Marx et Engels. Je trouve ça fantastique. Je trouvais ça très très beau. Moi, je voulais juste dire deux autres choses. Je voulais faire une annonce et dire une autre chose importante, c'est que ce jeu. Alors nous, voilà, on manque pas de qualificatifs, voilà, de superlatifs. Il est fantastique, etc. Ne nous croyez pas, uniquement nous, ce jeu, il y a peu de gens qui l'ont remarqué, mais c'est le jeu PC qui a la meilleure note de tous les temps sur Metacritic. C'est-à-dire que selon le site Metacritic qui reprend toutes les critiques, les notes de toute la presse, le meilleur jeu vidéo PC, c'est Disco Elysium. Et c'est pas un hasard, c'est le meilleur. C'est pas un hasard du tout, donc ça je tiens à le préciser. Et enfin, moi je voulais faire une annonce, je dis tout le temps que mon jeu préféré c'est Baldur's Gate 2, il est temps de m'assumer, mon jeu préféré c'est Disco Elysium maintenant. C'est
Oh là là.
Et Baldur's Gate 2, ça a été mon jeu vidéo préféré depuis peut-être 20 ans, bah non, il reste dans mon cœur pour toujours, mais Disco Elysium il est à part et il est incroyable, et je me le suis dit quand je l'ai terminé, j'ai laissé passer des mois parce que c'est pas vraiment que je l'ai terminé, j'assume, vous pouvez appeler la presse, l'AFP, mon jeu vidéo préféré c'est Disco Elysium.
On envoie les communiqués de presse tout de suite.
Très bien.
Ah là là là. Moi je me couche. Hein, mon prix Julien Teluk, je ne l'annoncerai pas.
Attribué à Pokémon.
Non, mais non, justement, je l'ai pas attribué en fait, mon prix Julien Teluk. Je vais vous donner un petit peu. J'ai regardé mon nombre d'heures jouées. Le jeu auquel j'ai plus joué sur PlayStation 5, c'était Cyberpunk. Je peux pas l'attribuer honnêtement à Cyberpunk. Ça serait de la malhonnêteté intellectuelle. Et sur Nintendo Switch, c'était Pokémon Arceus, le jeu que j'ai clashé l'année dernière aux Alien Awards. Donc pareil, je peux pas faire ça. Voilà, j'ai joué à Stray sur PS5. qui écoutez, est un bon jeu, en plus un jeu français qui a été récompensé aux Game Awards d'ailleurs cette année, je crois aussi. Mais honnêtement, je peux pas non plus lui attribuer le jeu de l'année. Donc
c'est le jeu qu'on fait. Comment ça s'appelle ? C'est le jeu des Lyonnais là, Arcane, un truc comme ça. C'est pas
alors, ça ? Tu parles de quel jeu ? Stray, c'est des Montpellierains. C'est des Montpellierains. Tu confonds.
Ouais, voilà,
tu confonds avec Dishonored.
Oui, Dishonored et Deathloop, non, c'est pas les mêmes.
Non, okay, c'est pas les mêmes.
Non, donc je vais me coucher devant votre recommandation, devant votre prix Julien Teilhoub, et je vais lui donner un plus 1.
Mais du coup ça me fait quand même penser que en plus tu as juste avant qu'on lance les micros, qu'on passe en on air, tu nous disais ne pas avoir avant que ta moitié te suggère ton prix, ta déception de l'année qui était à Gastro. Ça aurait aussi pu être le fait que t'avais pas de prix Julien Teilhoub. Finalement, t'as rien.
C'est vrai. Mais c'est pas une déception en soi.
Bah,
c'est pas une déception. C'est un aveu d'échec. C'est juste le manque de temps, le temps pour faire certainement d'autres choses, en tout cas que jouer aux jeux vidéo. J'ai fait peut-être un peu d'autres trucs, mais j'en ai déjà discuté longuement dans ma chronique de Et les garçons sur comment trouver du temps pour la consommation culturelle ou en tout cas faire semblant. Et j'ai beaucoup backseat cette année. J'ai beaucoup j'avais beaucoup joué aussi en 2021, donc peut-être que j'avais un petit down d'activité entre guillemets en 2022. Je compte bien m'y remettre.
T'as mal choisi ton année.
Ouais, j'avoue, mais je compte bien m'y remettre un peu parce que du coup là, je viens tout juste d'acheter God of War. Enfin, on vient tout juste de m'offrir God of War, qui m'a l'air excellent, mais c'est trop tôt pour dire que c'est mon jeu de l'année. Et on m'a aussi offert en préco Hogwarts Legacy, dont je suis très pressé. Mettre la main dessus.
Le deuxième jeu le plus attendu de 2023 après Breath of the Wild 2, selon selon la presse.
À mon avis, c'est pas lui à Maccabi, pourtant. Hein. Ne vous emballez pas, hein, je pense.
Non, mais je ne fais que citer les faits, monsieur.
Mais faits. Florian, il faut que tu joues Immortality. Il est gratuit sur Netflix et il est dans tous les top 3 que j'ai vu du monde entier.
Mais ça va venir. J'ai un backlog qui est énorme et du coup effectivement je me rattrape petit à petit et effectivement je pense que 2023 sera plus productif en termes de jeux vidéo que 2022.
Le prix Francis Lalanne qui récompense la révolte de l'année.
Qui en a gros sur la patate ?
Je pense que Vic et moi on a le même, donc je vais laisser Vic commencer.
Ah, c'est vrai, on a le même ? Moi je t'ai parlé.
Je pense. Ouais.
Ok. Donc du coup, on va conclure le prix Julien Teilhoub d'avance, qu'on va un petit peu en reparler. Parce que Florian, as-tu bien retenu notre double prix Julien Teilhoub ? Si je te cite trois noms, je vais te dire Robert Kurwitz, Alexander Rostov et Hélène Inpereux. Ça te dit quelque chose ? On vient d'en parler, non ?
Oui, tout à fait.
Absolument, ce sont donc effectivement les trois fondateurs du studio Zaoum qui sont à l'origine de Disco Elysium. Eh bien, sache que ces trois personnes-là viennent d'être, il y a quelques mois à peine, viennent d'être licenciées de Zaoum. Mmh. Donc, suite à une affaire qui date d'octobre 2022, puisque l'actionnaire principal, hein, qui est un industriel estonien du coup, vient de les licencier. Alors, c'est mon prix Francis Lalanne, ça pourrait être pour plusieurs choses. Je l'ai résumé en trois lignes. Si c'est le même que tu as, Thomas, je te laisserai parler après pour pas qu'on s'étale dessus. Mais moi, c'est parce que, bah justement, c'était mon prix Julien Teilhoub et moi, je suis encore dessus et je l'ai pour le coup pas comme toi, Thomas, fini. Mais je redoute de le finir tellement je me sens bien à chaque fois que j'allume ma petite Switch, car j'y joue sur Switch et non sur PC. Et donc voilà, j'étais là, c'est un jeu de génie développé effectivement par des gens qui sont extraordinaires, c'est il y a vraiment quelque chose en plus, ce sont des vrais socialistes, des vrais communistes, en tout cas pas le en termes de socialiste, pas le PS français, mais voilà, on l'a au sens traditionnel du terme. Et je m'étais dit voilà, vivement leur second jeu, vivement de voir comment ce studio, j'avais envie de regarder les choses sur le studio, comment ils fonctionnaient, comment quel allait être leur prochain jeu, leur manière de travailler, etc. Du coup j'ai fait quelques recherches en parallèle de mon jeu et je suis tombé là-dessus. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, hein, ce serait trop long et c'est encore actuellement en train d'être jugé. Mais c'est, alors c'est pas de leur faute à eux, mais il n'empêche que enfin, en tout cas selon ce que j'ai pu lire, mais c'est des combines. C'est des combines d'argent, c'est des histoires d'argent par rapport au fait que ça ait fonctionné, par rapport au fait que bah voilà, maintenant ça génère de l'argent. Donc c'est rentré techniquement dans le grand système capitaliste, dans le gros système néolibéral mondial et industriel du jeu vidéo américain principalement, enfin, américain ou asiatique, mais en tout cas capitaliste, dont tu parlais juste avant, Thomas. Et du coup, bah, j'ai été très déçu, alors que j'attendais un petit peu un studio. J'en avais parlé dans un épisode il y a longtemps, il me semble, ou en tout cas je vous en ai peut-être parlé à vous. Il y a un documentaire sur YouTube qui parle du studio Motion Twins, hein, qui est le studio français, pour le coup bordelais, de Dead Cells, qui fonctionne comme une association où eux aussi ce sont des communistes. Donc il y a un documentaire sur YouTube sur Motion Twin qui est extraordinaire, mais c'est une toute petite équipe, et je m'attendais un peu à retrouver ce même genre de schéma avec un super truc, et non, je tombe sur des histoires d'argent, des gens virés, des procès et l'argent qui gagne à la fin. Donc j'ai été très déçu, et c'est mon prix Francis Lalanne. Voilà.
Ouais, bah on a...
Ça pourrait presque être un prix moutarde condiment.
Ouais, mais c'est plus une c'est une révolte, c'est et une déception c'est que... à la fois. C'est un prix Francis Lalanne au condiment. Voilà.
Florian, je vais y aller, parce que je vais compléter un peu, parce qu'effectivement, moi mon prix, je le décerne au capitalisme et au pouvoir démesuré de l'argent qui brise les humains. C'est le nom de mon prix exactement. Et pourquoi? Pour Zaoum, pour les raisons qu'il vient d'évoquer, on ne va pas rentrer dans les détails plus que ça, mais voilà, effectivement, en gros, tu as les money guys qui ont sorti les artistes. Il faut bien comprendre que Robert Kurwitz, l'univers qu'il a développé là, il développe depuis qu'il a 15 ans dans des parties de jeux de rôle, etc. Et il s'est fait déposséder de sa licence intellectuelle. C'est-à-dire que sa propriété intellectuelle, c'est-à-dire que l'univers de Disco Elysium ne lui appartient plus, alors qu'il la développe depuis 25 ans. Quoi. C'est un scandale, c'est terrible. On l'a amputé d'une partie de lui, c'est révoltant, donc voilà. Mais si je n'ai pas décerné ce prix à Zaoum, mais directement au pouvoir démesuré de l'argent, c'est parce que je voudrais aussi parler de Game Cult, qui a donc été... Il y a toute la rédaction de Game Cult qui a démissionné il y a quelques mois, parce qu'ils ont été rachetés par Reworld, qui est une sorte de... Ça me fait mal d'appeler ça un groupe de presse, mais parce qu'en gros, ils achètent des titres de presse pour les vider de leur substance et en faire des machines à publicité. Et donc, Game Cult, aujourd'hui, c'est un zombie. C'est un site mythique d'Internet qui existait depuis 21 ou 22 ans, un truc comme ça, qui nous a tous accompagnés, qu'on était abonnés ou pas. Bah, Game Cult, c'était mythique, quoi, tu vois. Et donc, Game Cult, c'est mort pour une raison de thune. Je voudrais parler de Trick Track, qui était un peu l'équivalent de Game Cult, on va dire, mais pour les jeux de société. Bah, Trick Track, c'est terminé, parce qu'ils ont mis la clé sur la porte pour des raisons de thunogie, parce qu'ils ont été rachetés par Asmodée. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, alors que ça a été monté par des putains de passionnés, quoi. C'était une équipe de passionnés à la base qui s'est dit, bah, venez, on le fait, quoi.
Mister Fall était révolté sur YouTube actuellement dans ses dernières vidéos. Ouais.
Donc, enfin, voilà. Et donc, il y a Game Cult, Trick Track, Zaoum, mais je voulais aussi parler de Twitter. C'est très différent, mais depuis Twitter, quand même. Depuis l'autre idiot qui a racheté Twitter et qui met en péril Twitter, c'est aussi ça permet à plein de jeunes ou de petits plutôt créateurs d'exister, des mecs qui vendent des jeux vidéo et des meufs bien sûr, qui font de la musique, qui font de l'art ou des choses comme ça, et c'est sur Twitter qu'ils trouvent de la visibilité, parce que sur les autres réseaux sociaux c'est compliqué, les algorithmes sont pas faits pour ça, ils sont plutôt faits pour mettre en avant des meufs en maillot et Twitter, qui était aussi un endroit où les gens s'étaient retrouvés, ils avaient créé des communautés, bah tout ça est en train d'être détruit aussi par ce fameux pouvoir démesuré de l'argent qui brise les humains et tout ce qu'ils aiment. Voilà, c'est à ça que je décerne mon prix Francis Lalanne.
Applause.
Bravo, donc vous avez, c'est encore un double prix Francis Lalanne du coup.
Franchement, cette prise de parole m'a ému, et c'était vraiment un vrai prix Francis Lalanne.
Ah ouais,
sachez qu'on est à distance, on enregistre chacun de chez soi, on n'a pas eu la chance de se réunir. Mais là, pendant que tu parlais, Thomas, tu n'avais plus la tête de Thomas à mes yeux.
Mais j'étais Robert Kurwitz, j'étais devenu Robert Kurwitz et révolté. Ouais.
Non, mais mélange entre Robert et Francis.
Gamecube, le jour, j'étais sur leur live stream quand ils ont annoncé qu'ils démissionnaient tous. Et le soir même, j'ai mal dormi, j'en ai parlé à ma meuf, je lui ai dit, écoute, moi je suis même pas abonné à Game Cult, hein, tu vois, mais ça faisait partie de la vie, et surtout, aujourd'hui, il n'y a plus aucun site professionnel de jeux vidéo en ligne de presse correcte. c'est terminé, c'était les derniers en fait. Aujourd'hui, maintenant, il faut se tourner vers la presse papier ou vers les amateurs qui ne peuvent pas produire du contenu comme on l'entend.
Dans un autre style, et peut-être si je peux, peut-être pour essayer d'entrevoir une lueur d'espoir dans ce que tu dis, je rejoins tout à fait ce que tu dis, tu as eu également la rédaction pour le coup dans la presse papier de, alors c'était, je crois, j'espère pas dire de conneries, mais je crois que c'était Science et Vie.
Ouais, qui était, ont donné Epsilon.
Voilà, qui sont devenus suite à exactement la même affaire que les Game Cult et machin.
C'est Reworld, c'est encore un coup de Reworld.
Ah, c'était Reworld aussi.
C'était Reworld, ouais.
Et ben donc ils ont, t'as Reworld, les mecs achètent des trucs, tout le monde démissionne à chaque fois. Donc au bout d'un moment, je sais pas trop ce que devient sur ces vies aujourd'hui, ce que deviendra Game Cult demain. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est pour ça que je te parlais de lueur d'espoir, c'est que tous ces journalistes de Science et Vie ont relancé leur journal Epsilon.
Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai suivi vachement le truc. Malheureusement, moi, j'ai suivi parce que voilà.
Il me semble que ça marche quand même. J'ai l'impression, non?
Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Epsilon, c'est ils ont beaucoup plus de comment dire, la presse scientifique. Il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés. C'est le genre de truc que tu achètes dans les presses, un peu par hasard comme ça, dans les gares. Il y aura pas de post game cult.
Non mais je fais pas une comparaison exacte en disant que c'est le modèle et qu'on peut faire ça, mais je dis juste que peut avoir des lueurs d'espoir.
Oui, mais il y a déjà, je vais vous en donner une. Ça a eu lieu quand? La semaine dernière. Il y a une des émissions de Game Cult qui s'appelait Gaijin Dash, qui était une des émissions mythiques de Game Cult, qui s'est relancée sous un nouveau nom là la semaine dernière, et ils ont explosé leur Patreon. Ils sont déjà à 10 000 € par mois ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, donc voilà, ça va exister par Camus Robotics et Puyo, qui était d'ailleurs le rédacteur en chef. Ça va exister, mais il y aura pas de nouveau site, c'est certain. Il y aura, mais par contre, ce qui est bien, ça me permet de le dire aussi, c'est que les amis, on vit à l'heure de la gratuité, on a pris l'habitude de consommer des contenus gratuits, moi le premier, mais n'oubliez pas, si vous pouvez avoir, je sais pas, 50 €, 20 € par mois à distribuer aux créateurs que vous aimez, à la presse que vous aimez, à tout ça, bah faites-le plutôt que donner à Netflix ou je sais pas quoi, c'est rien du tout. Moi, tu vois, vous voyez, je suis abonné à JV Le Mag, abonnez-vous à JV Le Mag, abonnez-vous à Canard PC, donnez de l'argent aux streamers qui font du travail type Gotos, type tous ces gens-là. Là, je parle de jeux vidéo, ça peut être autre chose, mais il ne faut pas oublier que c'est ça qui nous permet d'avoir encore un peu de contenu de qualité sur Internet et pas juste de la merde, en vrai, parce qu'on tend vraiment vers ça, de plus en plus.
Et sachez que Florian mettra à disposition dans la description de cet épisode notre lien Patreon.
Donc je suis désolé, je me suis laissé emporter à nouveau, désolé.
Mais c'est important, Thomas. Par contre, du coup, mon prix Francis Allan, il fait un peu pâle figure face aux vôtres cette année, mais c'est pas grave, je vais l'assumer. Mon prix Francis Allan est attribué au bus.
Alors, développe.
Alors, moi, j'ai toujours été plutôt épargné parce que je suis conducteur de deux roues, mais depuis peu, je dois prendre les transports en commun. Et je me rends compte des dysfonctionnements que vous subissez au jour le jour et que moi, je ne subis que depuis un an, je dirais. Et ça me met hors de moi à chaque fois. Donc le métro, je le savais déjà, je le prenais quand même, j'ai déjà pris moult fois. Surtout la ligne 13, c'est là où j'habite, c'est un enfer, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est de pire en pire, quoi. J'ai l'impression que depuis le Covid, c'est à rebours aujourd'hui qu'on paye vraiment les pots cassés du Covid et de toute la crise sur les transports en commun.
Ouais, c'est terrible.
Et le matin, il y a des attentes, il y a 18 minutes entre deux métros le matin, enfin sur la ligne 13, ce qui est pas pensable, ce qui est pas logique.
Était déjà pas praticable, quoi.
Elle était déjà pas praticable, même s'il y a 14 maintenant qui passe à Saint-Ouen et tout. C'est 18 minutes entre deux métros le matin sur la ligne 13, c'est
grotesque.
C'est un crime, presque, vraiment. Il y a des gens qui vont mourir, c'est certain, quoi. Il y a zéro facilité d'accès pour les poussettes, il y a que des escaliers partout, la signalétique, voilà, c'est manquant, c'est incomplet. Enfin bref, c'est le métro, ça on le savait déjà, mais jusque-là, il y avait un transport en commun quand même qui conservait une petite place privilégiée dans mon cœur, et c'était le bus. Et choqué et déçu, quoi. Le 85, c'est celui que je prenais souvent avant, pour venir, quand je voulais aller dans le 18e ou aller dans Paris sans forcément prendre la moto pour aller boire des coups, etc. Et ça se passait plutôt bien avant. Et maintenant, c'est pire que tout, quoi. C'est l'enfer sur Terre. Il n'y a plus d'estimation aux arrêts de bus. Parfois, le bus ne passe pas. Parfois, il passe, mais il s'arrête deux arrêts plus loin. Moi, je suis quasiment au terminus, hein, je suis à 3 arrêts du terminus, donc ça veut dire que le bus ne fait que 5 arrêts et après il s'arrête, il va pas plus loin pour un bus qui traverse tout Paris, quoi. T'as aucune indication, t'as rien sur le site, rien sur le serveur téléphonique, enfin bref, quand il arrive à la porte de Clignancourt, tu te fais coincer dans des bouchons et c'est souvent lui qui les provoque, d'ailleurs, les bouchons. C'est voilà le bus. Je pourrais en parler. Je pourrais en parler des heures, je pense aussi, mais je m'abstiendrai et je me coucherai face à votre prix, Francis Lalanne, parce que
non, mais t'as entièrement raison aussi. Hein, le truc dont tu parles, c'est gravissime. On a des gros problèmes de transport en commun à Paris. Ça s'est aggravé beaucoup. On n'arrive pas à embaucher des chauffeurs de bus parce qu'ils sont sous-payés et qu'ils doivent vivre très loin parce qu'à Paris, les loyers sont trop chers. Enfin, c'est tout aussi révoltant, tout à fait. C'est un vrai problème.
Non, et puis je me rends compte que maintenant, et que je suis dans une posture entre guillemets de fragilité, parce que je suis avec une poussette, avec un bébé, ouais. Et forcément t'es plus en posture de fragilité et tu te rends compte qu'effectivement les transports en commun ne sont pas du tout prévus à Paris pour ces personnes là donc autant les personnes en poussette que les personnes en fauteuil roulant, que etc. quoi. Donc non, c'est un voilà, c'était mon prix, Francis Lalanne, mais sur le bus et le 85 en particulier. Si je pouvais lui crever les pneus, de toute façon je m'en fous, je le prends plus, donc je peux lui crever les pneus.
Très bien.
Voilà pour moi. Je pense qu'on peut passer au prix suivant pour un peu plus de bonheur.
Le prix Romanetti, qui récompense un truc qui ressemble à un autre truc mais qui est super bien quand même.
Thomas, cette fois-ci, en premier.
Alors, mon prix Romanetti est décerné aux jeux vidéo qui ressemblent à la vraie vie, mais en mieux et en moins dangereux. Voilà, parce que, voilà, nouveau jeu vidéo, j'ai beaucoup parlé de jeux vidéo ce soir, mais j'ai attendu d'avoir 35 ans et surtout d'avoir un bébé pour apprécier à ce point les possibilités d'évasion qu'offrent les jeux vidéo. C'est vraiment fantastique de se poser et de se dire « Ok, là, je souffle, je suis ailleurs, je m'évade de ma vie. » En tant que jeune parent, c'est ouf et il devrait y avoir des affichettes dans les PMI pour dire aux gens, mais attendez, si vous êtes en galère, allez faire un open world, un peu vous balader pendant une heure le soir, ça va vous faire souffler vraiment. Voilà, c'est mon prix Romanetti, c'est pour les jeux vidéo, qui ressemblent à la vraie vie, mais en mieux et en moins dangereux.
Je trouve que c'est un très bon prix.
Merci.
Pareil. Mais vas-y Florian, enchaîne, ton prix Romanetti.
Alors moi, mon prix Romanetti, c'est les week-ends de parents. Et bah, ça a le goût du voyage, ça a l'odeur du voyage, mais c'est pas un voyage, c'est... Qu'est-ce que j'appelle les week-ends de daron? C'est les week-ends à 1 ou 2 heures de Paris où on part. On l'a fait une fois, on l'a fait deux fois déjà avec Thomas. Désolé Vic, on part en amoureux avec Thomas, avec nos moitiés et nos bébés. Et on part à 1 heure ou 2 de Paris, on emmène un jeu de société. On boit un verre, mais pas plus. On boit des panachés, parce que les panachés, c'est pas mal. Et on fait rien. Et on joue à un jeu de société quand les petits dorment. On profite, on mange et on retourne revivre notre vie de daron sur Paris quelques jours après. C'est pareil, une petite pause très agréable dans nos vies. Et ça, donc c'est voilà, c'est les week-ends de daron. C'est comme les voyages, mais en pas pareil, mais en super bien quand même.
Ce que dit pas Florian, c'est qu'une fois que les enfants sont couchés, ça devient des soirées échangistes.
Tout à fait. En tout cas, c'est ce que ça peut devenir d'ici quelques années, oui.
Je te comprends, Florian, je suis tout à fait d'accord.
Et toi, Vic?
Je vous excuse tout à fait, hein. Je trouve ça très très bien, ces week-ends de daron. Mais je n'ai pas le droit d'y participer, n'étant moi-même pas
non,
daron.
Tu n'as pas le droit. Après, t'as un chien, c'est un peu ton fils.
C'est vrai.
Et puis surtout, si on fait ça, c'est pour vous préserver, hein. Sachez-le.
Il n'y a pas de souci. Défoulez-vous dans ces vacances, presque vacances Romanetti. C'est bien que ce soit chouette. Mon prix Romanetti, avant d'attribuer mon prix Romanetti, est-ce que si je vous dis Van Riesel, ça vous dit quelque chose?
Comment, redis ça?
Non.
Non.
Non, Van Riesel, si je vous dis non. Van Riesel. Je continue.
Je ne connais que Van Boerpalet.
Van Boerpalet, je continue. Je vous dis Kiprun. Kiprun, ça dit quelque chose? Je continue? Non, je vous dis Forclaz. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah, Forclaz, je connais.
Je continue? Je continue.
C'est Decathlon, ça.
Ah, ouais, Triban, etc., etc. Toutes ces nombreuses marques de mon prix Romanetti, cette année attribuées à Decathlon. Car cette année, depuis que ça avait été l'un de mes prix il y a 2 ans, je crois, un prix de ce que je m'étais remis au vélo, je ne sais plus à quoi j'avais attribué.
Ah, c'est le vélo, oui. Ah, c'est l'année dernière.
C'est une reco même.
C'était peut-être une reco ou un prix, je ne sais plus. Mais je me suis mis au vélo. Puis je me suis, en fait, quand j'avais fait ce prix-là l'année dernière, je m'étais mis au vélo de ce que je vous avais expliqué, le côté intermodal du commuting, c'est-à-dire aller au travail à vélo. J'ai même passé une étape où maintenant j'ai même acheté un autre vélo, un second vélo, et dans lequel maintenant je fais même du vélo. même pas pour aller au travail, pour aucune raison. C'est mon petit, voilà, c'est une petite nouveau hobby, disons.
Le mec fait du vélo pour aucune raison.
Voilà, exactement, exactement. Et du coup, faisant du vélo pour aucune raison, je suis retourné chez Decathlon, d'où les marques que je vous citais, car toutes ces marques-là, au-delà de leur côté innovation et nouveauté produit, enfin, ils vont vraiment innover sur le marché dans les différents domaines qui traitent Decathlon. Mais au-delà de ça, Decathlon propose bien souvent des produits pour donc, le sport, les différents sports ou même la marche et, ou d'autres passions d'extérieur, on va dire, qui sont des copies de marques souvent plus chères. Donc Decathlon les propose à beaucoup moins cher et néanmoins, pourtant, très chouette et de qualité. D'autant que le monde du vélo, tout comme bah, généralement, enfin tout comme probablement
le monde du sport de manière générale.
Voilà, hein. Le monde du sport de manière générale est très, enfin propose des produits assez chers. Eux arrivent à proposer les mêmes technologies grosso modo. Hein, donc je sais pas, dans le cadre du vélo par exemple, c'était aussi dans notre grand classement Florian, mais tu connaissais pas le Gore-Tex qui est cette ce tissu qui permet vraiment d'être à la fois au frais et entièrement comment dire imperméable. Bah, c'en est une, par exemple, des technologies qui est vendue très cher ailleurs, bah, quelque chose en Gore-Tex chez Decathlon coûtera moins cher. Donc ils arrivent à faire du pas cher de qualité, ce qui lui vaut mon prix Romanetti 2022, pardon. Voilà. Decathlon.
Bravo Decathlon.
C'est un bon prix, et en plus c'est français, cocorico, c'est vraiment très agréable. Moi j'ai beaucoup Decathlon aussi. Bravo Decathlon.
Bravo.
Et pour Decathlon et Pipip,
Fort Class.
Très bien, excellent, on dirait une pub. Tu serais pas publicitaire, toi ?
Arrête, oh you. Thomas ? Thomas ?
Et on a fait le tour, Florian.
Ouais. On a déjà fait le tour ? Ah, mais j'en veux d'autres.
Florian a envie de faire deux tours par prix.
Mais moi, je pense que tu as envie d'un prix Startup Nation, Florian.
Le prix Startup Nation, qui récompense ce truc qu'on n'a pas eu le temps de faire, et c'est bien dommage.
Moi, ça va être le prix Startup Nation va être relié à mon prix Romanetti. Donc, je vais pas vous dire que j'aimerais faire que j'ai pas eu le temps de faire plus de week-ends de daron et tout ça et tout. Non, je vais vous parler d'un truc qu'on a commencé avec Thomas et nos moitiés respectives. Désolé encore une fois, Vic.
Excusez.
C'est Pandemic Legacy saison 2. Donc, je devrais aussi m'excuser auprès d'un autre pote qui s'appelle Polo. Polo, si tu nous écoutes, désolé. Avec Thomas et nos moitiés respectives, on a lancé la saison 2 de Pandemic Legacy. Et franchement, on a plutôt bien avancé. On est à quelques mois de la campagne. Je dirais qu'on est au mois de mars, un truc dans le genre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Pandemic, c'est un jeu de société dans lequel on essaie de sauver le monde contre des méchants virus. C'est très sympa, vous devriez essayer et pas vous fier juste à ma description qui est toute pourrie. Et du coup, il existe une version Legacy de ce jeu de société qui est une version un petit peu storytellé avec des missions et surtout un principe qui fait que chaque tes actions ont un impact sur le plateau de jeu, mais aussi sur le contenu du jeu. Donc tu dois déchirer des cartes à certains moments si tu fais telle ou telle action qui est un bonus ou un malus pour les parties à venir. Donc c'est génial, et on avait déjà fait la saison 1 avec Thomas, avec Vic et donc avec Polo, et on n'a jamais trouvé le temps, et on n'a vraiment objectivement plus le temps de faire la saison 2 avec cette même équipe, et on s'est dit de notre côté avec Thomas qu'on allait faire la même chose avec nos moitiés pendant nos week-ends de daron ou pendant justement nos 2-3 pauses, nos 2-3 week-ends un petit peu plus pépères avec les enfants qui dorment. Mais on n'a pas joué autant qu'on aurait voulu, et vous savez pourquoi ? Parce que ça dort pas tant que ça, les gamins. Ça dort beaucoup quand c'est petit, mais ça dort de moins en moins. Donc du coup, non seulement on n'a pas pu faire autant de week-ends de daron qu'on voulait, mais encore moins jouer à Pandemic Legacy saison 2. Et du coup, bah, c'est un peu mon prix Startup Nation. Mais
ouais, mais je déteste les enfants.
mais sincèrement, je suis très confiant pour l'avenir, parce que autant ça dort de moins en moins, autant quand ça grandit, ça peut jouer ensemble. Et c'est pas mal. C'est ma lueur d'espoir au bout de ce tunnel de
merde.
Tunnel de merde.
Ouais, j'apprécie ton espoir. J'apprécie.
Vic, peut-être cette fois-ci, si tu veux arriver en deuxième.
Je veux pas spécialement, mais si tu veux. Deux remarques néanmoins sur ton prix Startup Nation. Je ne vous en veux là non plus pas du tout, parce qu'effectivement, je n'aurai absolument pas le temps de jouer à un jeu Legacy, Pandemic Legacy ou un autre, avec vous. C'est très compliqué en ce moment. On n'arrive même pas à se réunir en physique pour faire un podcast. Et la deuxième chose, c'est aussi la critique que je ferai à ce genre de jeu. Ou alors bon, ça a été pareil, ça a été débattu et voilà. Mais le côté souvent les jeux legacy sont demandent beaucoup de temps. On avait quand même mis longtemps sur la saison 1. Là,
ah
je ne sais
bah,
pas combien
sûr.
De temps vous avez joué, mais voilà, c'est des parties qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il faut en faire 10 ou 12 ou 15 parties. Donc, il faut trouver le temps de se réunir à 4. Alors là, vos week-ends sont effectivement assez pratiques et ça me semble être un bon pattern à retrouver pour pouvoir le faire. Mais c'est une petite critique de ces jeux-là. Alors après, qu'on pourrait faire à. Enfin, c'est un peu con de. On pourrait faire à des jeux qui ne sont pas Legacy, mais. Là, t'es obligé, quoi. Vous pourrez jamais jouer l'un ou l'autre, hein, Legacy. Enfin, vous pourrez jamais reprendre de votre côté ce Legacy. Et voilà. Mais bon, la saison a été chouette. Et j'espère que vous me raconterez la fin.
Pas de souci. En soi, il y a aucune obligation à ce qu'il faille jouer avec le nombre de personnes. Qui a commencé la partie.
Ouais.
On peut très bien commencer à 4 et être 2 personnes sur la deuxième partie, etc. etc. Mais
ouais.
C'est juste moins fun, quoi.
Ouais.
En tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'imagine. Donc, je vois ce que tu veux dire. Et à la fois, c'est aussi son intérêt.
Un lien social. Oui, bien sûr. Non, mais complètement. C'est un petit défaut, disons, que je voulais rajouter à ton prix.
Mais non, on l'a commencé, je dirais, en septembre ou en octobre, donc dans la vraie vie, hein, le jeu. J'ai bon espoir quand même que d'ici septembre ou octobre prochain, on l'aura peut-être pas terminé, mais au moins déjà très bien avancé, quoi.
Donc, mon prix Startup Nation qui récompense ce truc que j'ai pas eu le temps de faire et que c'est bien. C'est un prix vraiment super Startup Nation. Plus Startup Nation, c'est pas possible. C'est aussi le résultat de la mondialisation, hein, de la mondialisation de l'économie, de nos vies, et même depuis quelques années, mondialisation de la maladie. Mon prix est attribué à prendre des vacances. depuis mai l'année dernière, j'ai pris 2 semaines à cause de cette foutue Startup Nation. Et donc, comment trouver un intérêt à ça, si ce n'est, puisque dans le prix Startup Nation, on est censé dire que c'est bien à la fin, et ben, ce qui est bien, c'est qu'il m'en reste plein à prendre.
Je vais partir en vacances très longtemps.
Très longtemps et très loin.
Pour faire des jeux Legacy.
Exactement, exactement. Je vais le finir avant vous. Donc voilà, c'est mon
prix. Mais tu pourras partir au ranch et te poser le cul dans ta baignoire en fer qui fait de l'eau chaude pour te prélasser sous les étoiles.
Ouais.
Et ça, c'est bien quand même.
Faut encore que j'installe
tout
quelques
ça
trucs.
En petit legging moulant, parce que je me rappelle de ton prix Grey's Anatomy, moi.
Eh ben oui, non, mais monsieur fait que des prix Grey's Anatomy complètement assumables. Parce qu'il veut pas dévoiler aux auditeurs ce qui est vraiment inassumable, alors que je le sais, moi, Thomas. Un jour, on fera les prix des autres.
Un jour, ça ressortira.
D'ailleurs, le prix Grey's Anatomy, ça devrait être quelque chose. Ça devrait pas être soi-même qui on cite son propre prix Grey's Anatomy.
Pour l'année prochaine.
Ouais.
Bonne idée.
Bref, et le tien, Thomas, ton prix Startup Nation.
Moi, mon prix Startup Nation, c'est un peu en lien avec cette année difficile. C'est que je n'ai pas eu le temps de lire, j'ai noté, hein, je vous le lis, lire des grosses pièces de littérature qui font mal, mais qui font du bien. Parce que j'ai lu beaucoup moins que cette année. Et ce que j'ai lu, c'était pas de la grande littérature. J'ai plutôt lu pour m'échapper, des univers, machin. Je parlais de The Witcher tout à l'heure, etc. J'ai lu des livres faciles, sans grande qualité littéraire, en fait, et c'est très bien. Moi, je ne suis pas du tout en train de juger, il n'y a aucun problème. J'adore aussi les littératures faciles, c'est même pas vraiment de la littérature, c'est plus du divertissement. Aucun problème avec ça. Mais je n'ai pas eu mes gros trucs qui font mal. Je n'ai pas eu, pour lâcher un nom, je n'ai pas eu mon Adam Levine qui tâche. Je n'ai pas eu mon Roberto Bolaño qui m'avale. Je n'ai pas eu tout ça. Ce d'autant plus, j'en profite pour rappeler... que Adam Levine, donc Adam Dieu Levine, a sorti un roman aux États-Unis cet été qui n'est toujours pas traduit en français et peut-être qu'il ne le sera pas. Et ça m'agace. Ça m'énerve. Voilà.
Petit wink-wink, Claro, si tu nous écoutes.
Ouais, petit wink-wink, édition inculte aussi, parce que c'est eux qui ont édité les deux premiers. Qu'est-ce que vous branlez, les mecs, quoi.
Alors que c'était pas l'inverse, les livres d'Adam Levine n'étaient pas sortis en.
Le deuxième.
En France. Le deuxième seulement ?
Ouais,
mais c'était une question de. Ouais, mais c'était un peu par hasard, quoi. Mais voilà, mais peut-être que c'était pas assez
c'était
vendu,
pas
je sais pas où. Peut-être que le nouveau, il est très centré sur la ville de Chicago, donc peut-être que c'est très américain, donc peut-être qu'ils veulent pas le traduire, je sais pas. Mais là, ça commence à faire 6 ou 7 mois qu'il est sorti, et j'ai peur qu'il sorte plus là maintenant en français.
Ça commence à faire beaucoup, mmh. Effectivement, oui.
Donc, et puis je me sens pas de lire du Adam Levine en anglais, quoi.
Il y a peut-être des fan trad sur internet,
j'en doute.
Ouais, franchement, c'est un hardcore fan trad, quoi. Il est chaud, le mec qui fait ça.
Florian.
Eh ben, je l'ai déjà dit, moi, non.
À chaque fois. Si, c'était le premier. C'était sur les pandémies.
Ah oui, voilà, pandémie. Tout à fait. Pandémie. C'était pandémique, Legacy. Mais moi, j'étais pas sûr de savoir si je l'avais dit ou non.
Le prix à emporter, qui récompense ce qu'on veut bien garder de 2022.
Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Est-ce que Vic veut commencer pour le prix à emporter ?
Eh bien, écoute, avec plaisir, puisque tu me tends le micro. c'était très compliqué, hein, comme je disais, 2022, année bof bof. Mon prix à emporter qui récompense ce que je veux bien garder de 2022 est attribué à Et les garçons.
Ah.
J'ai aimé en enregistrer un premier. Hein. Aujourd'hui, on n'en a enregistré qu'un seul. J'espère que les auditeurs l'ont apprécié, l'apprécient et l'apprécieront. Du coup, je continuerai bien en 2023. J'ai d'autres sujets que je me suis noté dans ma besace pour de futurs épisodes d'Et les garçons. Donc, c'est mon prix à emporter.
Très bien, c'est un bon prix à emporter. En plus, ça fait de l'autopromo. On aime bien chez Aline et les garçons.
Exactement.
Tout à fait.
Et toi, Thomas, peut-être quelque chose à emporter de 2022 ?
Bah, écoute, je vais y aller, mais ça va créer une sale ambiance pour, pour la fin de l'épisode, mon prix à emporter. Hein, je vous préviens tout de suite. Ça va créer des dissensions. Peut-être qu'à cause de mon prix emporté, il n'y aura pas ton prix emporté à l'avenir, Vic, parce que peut-être qu'on va arrêter le podcast, que vous allez être très énervé.
Ah là 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 là.
Mais je me lance. Mon prix emporté, qui récompense ce qu'on veut bien garder de 2022, est décerné à notre auditrice numéro 1, Eve, et ses petits biscuits délicieux que j'ai mangés sans vous. Parce qu'on ne s'est pas vus, et que du coup, je n'allais pas les laisser moisir. Donc voilà, désolé, hein, mais je les ai mangés sans vous parce qu'on ne s'est pas vus, c'était compliqué, on a galéré pour le podcast, et voilà. Et moi,
t'as tellement bien fait.
Alors, je vous apporterai la petite carte, parce qu'elle a fait une jolie petite carte encore.
J'ai envie de crier, j'ai envie de crier avec la voix de l'acteur principal de 300, le mot vengeance, mais je ne me tenterai pas de le faire, je suis dans la chambre, il y a du monde, il est tard. J'ai envie de crier vengeance très fort et de voilà, mais bon, bref,
donc, et merci, on profite pour remercier officiellement à Eve. Et du coup, notez que c'est le prix remporté, donc zéro pression, hein, mais ça commence à ressembler à une petite tradition, ces petits biscuits de Noël chaque année. Donc bon, je le mets dans le prix remporté, on verra, pas de pression. Merci beaucoup à Eve, qui, je rappelle, est notre auditrice numéro 1.
C'est vrai que l'année dernière on avait déjà eu des petits biscuits,
mais oui, donc ça fait deux années de suite, donc du coup ça ressemble un petit peu à une petite tradition, ce qui est pas pour me déplaire.
Moi, j'aime bien ça, j'aimerais bien en recevoir, mais bon.
Non, bah écoute, l'année prochaine, bon, on verra s'il y en a de l'année prochaine déjà. Mais au pire du pire, je te ramènerai la carte et à la place, je mettrai des pims ou des choses comme ça et ça fera un peu pareil.
C'est sournois. C'est sournois. Déjà, c'est sournois de les avoir mangés sans nous et c'est sournois de nous les annoncer en direct, de nous l'annoncer
en
direct.
C'est clair.
C'est pas bien.
C'est mon côté, j'aime bien faire des petites actions un peu spectaculaires dans le direct.
Ouais.
C'est pas bien. Il est en train de dire c'est pas bien, comme si c'était son enfant. C'est pas bien. Pas bien, Thomas. Pas bien. Coucher.
On dit
pas ça aux enfants, non.
J'espère qu'ils étaient pas si bons, mais pour y avoir goûté ceux de l'année dernière, je crois que c'était quand même pas mal.
Désolé, Florian.
Mon prix à emporter, ce que je veux bien garder pour 2022, non, de 2022 pour 2023, c'est les travaux. Alors, pas que j'aime ça les travaux, mais si, un peu quand même. Surtout le plaisir de voir les choses avancer. Cette année, j'ai fait une toiture. Je sais pas si j'ai déjà dit dans le podcast, mais j'ai fait une toiture et c'était très chouette et je suis content de voir les choses progresser. Ce
qui est fou, c'est que t'avais pas fait les murs avant, t'as fait une toiture sans rien d'autre. C'est juste, c'est ça qui est impressionnant, c'est une toiture toute seule.
Et ça flotte, c'est ça qui
est
ouf.
C'est très impressionnant.
Non, les murs existaient effectivement, mais le toit, bof. Donc j'ai refait une toiture. Écoutez, c'était très satisfaisant. Voilà, c'est le prix à emporter pour moi.
Bravo. Ouais, bravo. J'avais commencé avant toi. Tu as toujours été plus doué que moi, même après que j'ai fait ça, un peu de travaux au ranch pendant des années. Et là, bon, bah forcément, en un an que tu as commencé à faire ça, tu m'as déjà bien, bien dépassé. Tu m'apprendras maintenant.
Ah, mais c'est juste sur la toiture. Après, il reste encore plein de choses. Mais peut-être que... Pourquoi j'emporte les travaux pour 2023 ? Parce que peut-être qu'on enregistrera un Et les garçons ou... un Allen Award dans ce second ranch, on ne sait pas comment on l'appellera.
Ouais.
L'auberge, peut-être, on verra.
Il va falloir lui trouver un nom, ouais. Mais avec plaisir.
Le prix Elisabeth Tessier, qui récompense ce qu'on attend le plus de l'année prochaine.
Et le dernier prix du coup de cet épisode des Alien Awards 2022, si je ne me trompe pas, le prix Elisabeth Tessier qui récompense ce qu'on attend le plus de l'année prochaine. Thomas peut-être peut commencer.
Moi c'est mon prix le plus court, ce que j'attends le plus l'année prochaine et ce qui explique beaucoup de choses sur pas mal de mes prix cette année et ce qui explique pourquoi on est à distance, pourquoi je suis fatigué, pourquoi j'ai une petite voix. Ce que j'attends le plus de l'année prochaine c'est une babysitter. C'est tout pour moi.
Voilà, drop the mic. C'est une très bonne idée, j'aurais pu mettre exactement la même chose. Mais je ne l'ai pas fait et ce qui me fait une transition. Mon prix Elisabeth Tessier de cette année... je suis resté dans la consommation culturelle et c'est que des acronymes, c'est BOTW2.
Ça a été le mien l'année, il y a quelques années. Ça n'a pas marché.
J'avais déjà mis l'année dernière.
Ça
ouais.
N'a pas marché.
Non, ça n'a pas marché. Mais là c'est en bonne voie. Quoi. Oui.
TOTK. TOTK.
Non, BOTK. BOTW.
Non.
Oui. Mais non, mais maintenant, effectivement, maintenant il y a un vrai nom et c'est BOTK.
Ah oui.
TOTK.
POTK.
Ah oui.
Attendez.
Tears of the Kingdom. Zelda,
oui,
Tears of the Kingdom.
Mmh, exact.
C'est vrai. Et je mets ça, et je mets aussi TLOU3. Est-ce que vous l'avez ?
The Last of Us.
Mais ils vont faire
The Last of Us, ils vont faire un 3. Il est déjà en production.
Mais il sort pas les
mêmes.
Oui, il y a même un multijoueur et tout ça qui arrive, mais c'est pas pour cette année.
Laisse-moi rêver, d'accord ?
Ah d'accord, à mon avis, t'as largement le temps. Et moi, ce que j'ai entendu, et ça va peut-être pas te faire rêver, le lead game designer de chez... comment il s'appelle Naughty Dog, qui travaille donc sur ça, il est tombé fou amoureux de Elden Ring et il souhaite faire le prochain The Last of Us à la Elden Ring, c'est-à-dire qu'avec de la narration environnementale, ce qui risque d'être un tournant de ouf dans la série quand même.
Bah tellement voilà, effectivement,
c'est,
oui.
C'est en tout cas, c'est ce qu'il a dit dans une interview. Alors après, est-ce que derrière il va se faire bully par Sony qui va dire non, mais on arrête tout de suite les conneries ou quoi, je sais pas. Mais voilà ce qu'il se dit.
Eh bien, ça risque d'être très surprenant. Non, je me doute très bien qu'il ne va pas sortir l'année prochaine, mais il y a certainement l'annonce, certainement des teasers, certainement des trucs comme ça, je pense. Et en tout cas, moi, je suis très pressé de savoir ce qui va sortir sur The Last of Us 3 et aussi sur la série.
Ouais,
rien,
elle est sortie à ou ça va sortir?
Non, elle sort je ne vais pas dire de bêtises, je vais regarder en direct live.
Elle sort
le 15.
Elle est diffusée nulle part en France, hein, donc il va falloir pirater, les amis.
Ah ouais,
exactement, il va falloir pirater, mais en même temps on a le droit si c'est pas diffusé en France, non, j'ai envie de vous dire, ou alors utiliser notre sponsor officiel qui est NordVPN,
bien sûr.
Bref, potentiellement la série est déjà sortie quand cet épisode sortira, ouais. Mais je suis très pressé de voir ce que ça va donner. A priori les critiques sont plutôt bonnes déjà dans les avant-premières médias américaines.
Une adaptation de jeu vidéo, normalement, ça marche pas. C'est caca.
C'est clair. Mais écoute, j'ai vu les trailers. Le premier m'avait pas forcément méga séduit. Le deuxième avait l'air très sympathique. Donc, les critiques sont bonnes. J'y vais mollement pour ne pas me faire brûler par l'excitation. Mais écoute, j'y vais quand même assez sûrement. Ça a l'air quand même vraiment pas mal. Donc, voilà.
Très bon choix.
Et toi, mon cher Vic, pour ce prix Elisabeth Tessier, tu l'as déjà dit, je crois,
non je l'ai... Non, peut-être. pas cette fois. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'attends pas grand-chose. Mais du coup, je crois que j'en ai peut-être parlé pendant le podcast. J'ai un onglet Internet ouvert en permanence sur lequel j'ai envie de cliquer, mais je ne clique pas, qui est Register. Register a un événement qui s'appelle la RAF 500. Mais je vous en ai parlé ou pas ?
Non, c'est quoi ?
La RAF 500, c'était... Rien à foutre 500. Non, la RAF 500, c'est l'acronyme de la Race Across France 500, qui est une course...
Si, je
vous en ai parlé. Qui est une course de longue... Enfin, une course, pas vraiment une course, mais un événement en tout cas, de longue distance de vélo. Donc, sur plusieurs distances, il y a 500 km, 1000 km, 2500 km. Bon, après, on arrive dans des trucs un peu trop de furieux. Mais 500 km à faire en 3 jours, ouais, c'est ça, je crois, 3 jours. C'est une expérience qui me tente pour vachement. Alors, je n'ai pas du tout le niveau, je suis pas du tout... Encore une fois, ce n'est pas une course, hein, à part qu'il faut arriver avant une... Enfin, il y a un classement à la fin et il y en a qui se battent pour gagner. Mais la plupart...
Ça s'appelle une course, alors.
Ouais, bien sûr. Alors, ça s'appelle une course, effectivement, mais dans lequel, en gros, c'est plus le principe de la finir. C'est plus le principe de l'expérience. C'est pas trop le principe. Enfin, à part pour certains, encore une fois, là où je te rejoins, tu as raison, Thomas. Mais néanmoins, moins, c'est pas le cœur du truc, quoi. Le cœur du truc est surtout de participer à ça. Ça dure la journée, la nuit, Tu t'organises un petit peu comme tu veux. Ça a l'air d'être une expérience assez enrichissante d'un point de vue humain. Ça me dirait bien, mais j'ose pas trop. Donc c'est à la fois mon prix Elisabeth Tessier, ce que j'espère qu'en 2023... Enfin, j'espère. J'aimerais bien en 2023 faire ça, mais j'hésite encore. Donc,
En 2022, ça se passait à Mandelieu-la-Napoule.
Exactement.
Que j'ai glissé dans une chronique, d'ailleurs.
Exactement. Bon, en 2023 aussi, mais ils ont inversé le point de départ et le point d'arrivée. Je crois que ça se termine l'année prochaine à Mandelieu-la-Napoule.
À Mandelieu-la-Napoule, ouais, super. Ouais.
Mais Mandelieu-la-Napoule, c'est dans le Var?
C'est, oui, je crois. C'est, en tout cas, c'est par là-bas.
Mais c'est, je connais très bien. C'est vers Théoul et tout ça, là.
Ah ben ça, je sais pas.
Mais moi, attendez, c'est mon neighborhood.
Eh ben, très bien.
C'est pas dans le Var, mais c'est pas loin du Var, autant pour moi, c'est à côté de Cannes, effectivement.
C'est la région, quoi.
Ouais, je connais.
Ça se termine là-bas, et notamment la Race Cross France 2500, donc la plus longue distance de cet événement longue distance, 2500 km de long, elle part du Touquet et elle termine à Mandelieu-la-Napoule.
Voilà,
et donc tu roules comme ça pendant 2500 km en passant notamment par tout l'école des Alpes.
Ça fait beaucoup quand même.
T'as 10 jours, je crois, pour le faire. Et ça fait beaucoup. Je suis même pas assez préparé pour la 500. Mais bon, c'est en juin, j'ai encore le temps de partir rouler pour m'entraîner. Voilà.
Et bon, on te souhaite beaucoup de courage.
Bien, merci.
Et on te souhaite aussi de retirer ces petites roulettes que tu as derrière ton vélo.
Alors ça, j'attends encore un petit peu. Je suis pas sûr que ce soit autorisé par le règlement, mais je vais essayer de faire passer ça.
Écoute, le règlement dit que tu peux même rouler avec assistance. Donc j'imagine assistance électrique.
Non, c'est alors si tu veux rentrer dans les détails, tu peux t'inscrire sans assistance, t'es tout seul, tu prends ton barda avec toi, tu peux dormir, tu prends tes tentes, etc.
Ah.
Et tu peux également le faire avec assistance. Le faire avec assistance, c'est du coup, c'est d'autres, t'es pas sur les mêmes, c'est pas les mêmes listes. Si tu finis premier avec assistance, tu finis pas premier sans assistance, quoi. Enfin, c'est des plusieurs courses, plusieurs événements dans l'événement. Et donc, avec assistance, ça veut dire que tu peux avoir une voiture qui te suit avec d'autres vélos. Là, c'est vraiment les ouf.
D'accord.
Quand tu arrives dans la montagne, ils te filent un vélo pour la montagne. Quand tu arrives machin, ils te filent un vélo pour machin, etc. Ils te donnent à manger, etc. Alors que sans assistance, tu es obligé de t'arrêter dans les boulangeries pour commander des baguettes, quoi. Mais c'est vrai. Et remplir tes gourdes d'eau dans les cimetières. Car, chose importante, et finissons sur un moment culture. Les points d'eau, les gens qui font ces courses longue distance qui l'ont dit, les points où l'eau est accessible en France 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sont à l'entrée des cimetières. Et c'est le seul endroit où tu peux être sûr de trouver un point d'eau potable en France, dans les villages et dans la campagne, et qui a permis à nombre de ces aventuriers cyclistes de survivre, tout simplement.
De ces ultra-cyclistes, comme le dit si bien le site racecross.cc.
Absolument. Donc pour l'instant, je ne suis pas vraiment ultra, je ne suis pas vraiment cycliste non plus, mais bon, peut-être un jour.
C'est déjà pas si mal.
Exactement.
C'est une belle conclusion, c'était un bel espoir. J'ai tapé dans mon micro, ça veut dire que c'est la fin de cet épisode des Alien Awards 2022. Je demande à l'orchestre de lancer la musique. Merci, orchestre.
Ouais.
Et chaque année, en tout cas, c'est peut-être même seulement la deuxième année, mais en tout cas, l'année dernière, nous avons conclu l'épisode des Alien Awards par une petite phrase pour le vous du futur. Est-ce que vous voulez conclure? J'imagine que vous ne l'avez pas préparé parce qu'on n'en a pas reparlé.
Mm-hmm.
Mais peut-être à brûle pour point, si vous aviez une petite phrase, quelques mots, un mot, une syllabe, une lettre peut-être pour votre moi du futur, quelle serait-elle? Quel serait-il? Thomas.
Non, moi je sais pas quoi me dire parce que voilà, je suis en piteux état, mais moi je finirai plutôt parce que si vous voulez, je conclurai si vous voulez parce que j'ai retrouvé dans le Slack, j'ai retrouvé un petit passage que j'étais supposé donner pendant que je parlais de mon prix Francis Lalanne sur la révolte du capitalisme et Zaoum, parce que j'ai retrouvé un passage un dialogue du jeu vidéo Disco Elysium qui parle très bien du capitalisme, et je voudrais du coup conclure sur un petit peu de poésie. On fermera sur ça si vous êtes d'accord. C'est trois lignes.
Ah bah moi je ne peux qu'abonder dans le sens de finir par quelque chose qui vient de Disco Elysium. Du coup je prends la parole. Qu'est-ce que je dirais à mon moi du futur? Alors quel niveau de piteusité je suis par rapport à toi, à vous, voilà, mais je suis aussi dans le bof-bof en ce moment. Alors j'ai envie de dire à mon moi du futur, j'espère que cette année fut plus chouette que Bof Bof. J'ai espoir, en tout cas, que ce fut le cas. Écoute, j'espère que tu écoutes ces paroles avec un sourire bienveillant plus qu'avec un ricanement au rire jaune.
Voilà. C'est si dark.
Putain la vache.
Mais en résumé, j'espère que cette année était plus chouette chouette que bof bof. Voilà.
Non mais le fond était bien, c'est la forme qui était pas terrible.
Oui mais là, en fait, si tu veux, on se voit pas encore une fois. Voilà, j'enregistre depuis mon lit et je suis en train littéralement de couler. Et donc là, je suis à moitié.
Tu t'enfonces dans ton lit.
Je m'enfonce dans mon lit. C'est de plus en plus dur de rester éveillé. Donc c'est aussi ça qui donne cette forme là.
Je comprends.
Alors et toi, tu dis quoi?
Je comprends. Moi, ma seule résolution que je me suis donnée cette année, c'est de passer le nouvel an prochain dans l'auberge. Donc peu importe comment elle sera, j'espère au moins qu'il y aura des murs sans trous et la toiture c'est fait, mais qu'il y aura des murs sans trous et au moins un radiateur pour que ça puisse être agréable. Et le message pour le mois du futur, c'est j'espère que t'es dans l'auberge en train de boire un petit verre de brandy écossais. C'est pas du tout écossais, j'en sais rien. Peu importe, un petit verre d'alcool, un petit verre de schnapps, un petit verre de schnapps avec un cigare au coin du feu de ta cheminée. C'est tout ce que je te souhaite, mon beau vieux Florian.
Et de poser ton verre de brandy parce que le petit crie et que merde, t'as 5 secondes du nouvel an. Non, vous irez finir votre partie de pandémie comme ça dans l'auberge sans moi.
Ah là 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 là, la jalousie.
Très bien, et on dit bisous à tous les auditeurs, on leur souhaite de passer une super bonne année aussi, et de prendre soin de leurs proches, de prendre soin des gens qui ne connaissent pas. Les gens sont méchants entre eux quand même.
Soyez gentils.
Est-ce que je lis ma petite phrase ou vous voulez ajouter quelque chose?
Soyez gentils. Fais-nous de la poésie. Soyez gentils, soyez amour, et c'est l'heure de la poésie.
Et oui, enfin c'est surtout l'heure de la propagande d'extrême gauche. C'est un dialogue entre un fiefé communiste et notre personnage principal, qui, juste pour donner du contexte, et le fiefé communiste, il explique que le capitalisme, il est tout souriant, tout gentil jusqu'à ce qu'ils sont en danger, et là seulement alors tu te rends compte de ce qui se passe. Et je trouve que ça faisait tout à fait écho à tout ce qui s'est passé pour GK, pour Trick Truck, pour tous ces trucs là. Le capitalisme c'est tout mignon, tout est beau jusqu'à ce que ça se passe mal, et là tu te fais déglinguer. La phrase qui dit c'est ça, et on se quittera sur ça les amis. Le capital tombe le masque de l'humanité, il doit le retirer pour tuer tout le monde, tout ce que tu aimes, tout espoir, toute la tendresse du monde. Il doit le retirer juste pour une seconde pour passer à l'acte. Et alors tu le vois. Alors qu'il étrangle et frappe tes amis à mort, les gens les plus doux, les plus courageux du monde, tu vois la peur et la puissance dans ses yeux. Maintenant, tu le sais.
Et bonne année !
Bonne année !
Allez, bisous.